Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois un humoriste que j'adore. On s'est rencontré à Montréal, où on jouait souvent sur les mêmes plateaux. Il est en visite en Belgique pour une semaine. Je reçois Jérémy Hippé. Comment ça va ?
Ça va super bien. J'ai un peu mal à l'oreille parce que je suis sorti hier et j'avais oublié que j'avais plus 25 ans. Mais ça va au top.
Bah merci beaucoup d'avoir accepté de faire le podcast.
Je t'en prie.
Pour la petite histoire, on devait enregistrer à Montréal.
Ouais.
T'as préféré annuler et maintenant tu es revenu sur ta décision. Est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi ?
Je pense qu'à l'époque, j'étais dans un plus gros grind créatif, mais j'avais pas grand-chose à mettre en valeur, à promouvoir. Là, j'ai un spectacle que je dois remplir dans pas longtemps, donc je me sens plus à l'aise de discuter de tout ce qu'il y a autour.
Ok. Est-ce que toi, t'es consommateur de podcasts, en fait ?
Oui, mais pas trop d'humour.
Ok.
Ouais.
Qu'est-ce que t'écoutes ?
J'écoute le podcast d'un mec qui s'appelle Andrew Huberman.
Okay.
C'est un Américain neuroscientifique qui parle beaucoup d'hormones et du cerveau et de comment booster en gros son potentiel humain et tout ça. C'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Et aussi, c'est un peu bizarre, mais des trucs de psychologie. J'écoute un podcast d'un mec qui parle de Carl Jung, qui est un psychologue psychanalyste que je trouve intéressant. Donc, c'est ce que je consomme en ce moment. Et beaucoup de trucs de rap.
Beaucoup de trucs de rap ?
Ouais.
T'es un gros fan de rap ?
Ouais. Ouais, quand même, ouais.
Bah, c'est un sujet avec lequel je ne pourrais absolument pas discuter avec toi. À part si tu peux parler de Eminem.
Ah ouais, c'est vraiment le seul. En vrai, c'est avec Eminem que j'ai commencé, donc on est ensemble là-dedans.
Ça marche. Mais moi, j'ai commencé, j'ai arrêté.
Arrêté ouais.
J'ai fait, ah, mais c'est sympa.
Ouais, ça suffit.
Il y en a d'autres, bon, c'est pas la peine, il est bien celui-là. Ouais. T'es de passage une semaine en Belgique.
Ouais.
T'as joué tous les soirs de la semaine, plusieurs fois au What the Fun, au Kings of Comedy Club, au Comedy Quête, au Code Comedy Tour, devant 400 personnes, grâce à moi.
Bah ouais.
Oui.
Merci les passes des. Non, en vrai. Les premiers plans, c'était toi, et puis les autres gars que j'ai rencontrés qui m'ont dit je vais te mettre là, c'est parce que tu m'as filé les premières scènes, donc merci.
Bah, avec grand plaisir. Moi, j'ai pas eu grand chose à faire, j'ai juste créé une conversation, dit à tout le monde, il y a un gars qui vient, il est drôle. Je vous le conseille, je vous le recommande. Je pense que les Belges, on a à cœur à ce qu'on soit une bonne terre d'accueil pour les humoristes, tu vois. On veut qu'on dise de nous, et c'est cool de venir jouer à Bruxelles, quoi.
Ouais, c'est ce que je ressens ici. Un peu comme à Montréal, il y a un délire de... Bah, chacun fait ses trucs un peu de son côté, mais il y a un délire de groupe que je ressens plus que quand je suis à Paris, où bah, il y a une ambiance qui est cool aussi, mais c'est un peu moins centralisé.
Bah, j'ai justement te demandé comment tu trouves un peu les plateaux en Belgique. Est-ce que tu as trouvé que le niveau est bon, que les gens sont cool, qu'on est bien accueillis, que les conditions sont chouettes?
Tu veux dire en comparaison à là d'où je viens?
Ouais, en comparaison à ce que tu as expérimenté ailleurs, quoi.
Je trouve que ça ressemble... Bah, après, j'ai pas tant joué que ça, parce que je suis resté quand même 3 ans à Montréal. Mm-hmm. Paris, bah, c'est chez moi, donc je connais très bien. Mais je trouve que ça ressemble plus à Montréal qu'à Paris, dans le sens où il y a 10 fois plus de gens à Paris. Mm-hmm. Donc il y a 10 fois plus de gens très forts. Et 10 fois plus de gens très moyens. Mmh. Alors que, bah ici, j'ai trouvé que disons que la moyenne générale que j'ai rencontrée, ça ressemble un peu à... Je sais pas si je suis en train de dire de la merde, là.
Là, tu dis ce que t'as ressenti, de toute façon, donc...
Bah moi, j'ai trouvé que le niveau était assez constant, mais j'ai joué qu'avec la même personne tout le temps.
Oui, tu as croisé souvent les mêmes personnes. Et puis tu joues aussi dans les plateaux avec des gens confirmés aussi.
Ok.
Tu n'as pas fait les open mic ou les scènes un peu plus...
Les bourbiers, comme on appelle ça en
France. C'est ça. J'allais dire les scènes underground. Okay. Les bourbiers, ça marche aussi.
Ouais,
okay. Je veux dire, les scènes un peu moins bien organisées ou qui démarrent, donc il faut un petit peu de temps pour que ça prenne de l'ampleur et tout ça. Là, tu as joué au Kings, qui existe depuis 2012, qui est adapté.
Trop bien. J'ai trop aimé l'endroit. Genre, c'est un comedy club, mais ça ressemble vraiment à genre... C'est comme ça que je verrais un comedy club dans un film, quoi. Tu sais, les comedy clubs, genre de comedy store. J'ai pas regardé la série, mais je sais qu'il y a la série I'm Dying Up Here, là, elle tourne autour d'un comedy club. Je crois que c'est le comedy store. Bah, c'est ça.
Je pense, ouais.
Ouais, c'est le feeling que j'ai eu en arrivant.
Bah, je pense que d'ailleurs...
Vieux club de jazz.
Si je me rappelle bien, quand ils ont voulu créer le comedy club, ils sont allés voir comedy store, ils ont vu un petit peu, ils sont inspirés. C'est très inspiré de ça.
Ok.
Et après Comedy Catch, je trouve que le décor est génial derrière, c'est super beau. C'est plus récent.
Ouais.
Et puis c'est un peu plus petit en termes de taille et de capacité de monde. Mais c'est trop cool. What the Fun, c'est chouette, c'est dans des lieux itinérants.
Ouais.
Après, t'as eu des soirées différentes en fonction de.
Bah ouais, je l'ai fait. C'est le réservoir.
Réservoir, t'as fait Contrebande le lundi.
Oui, c'est ça. Contrebande.
J'ai remplacé Bénin à l'animation.
Ouais.
Le mardi, t'as joué à la soirée test.
Au réservoir. Ouais.
Le mercredi, t'as fait la soirée humour noir.
Ouais. Et c'était genre deux salles, deux ambiances. Le même endroit, c'était. Bah, le premier soir, on était ensemble, c'était très cool, il y avait une dizaine de personnes, super polies et tout ça, tu sais, un peu timide. Et le lendemain, c'était, j'allais dire le rodéo, non, c'était rock'n'roll, genre c'était rempli à ras-bord. Et c'était...
Mais la soirée Humour Noir est vraiment très populaire au réservoir. Okay. C'est une soirée qui a une fois par mois.
Ouais.
Et donc en fait, c'est une soirée où il y a les gens qui viennent vraiment pour de l'humour noir.
Okay.
Ils veulent du sang, quoi.
Ouais.
Un peu plus. Donc il y a une ambiance un peu plus... plus dur, plus rock and roll.
Okay.
Mais le réservoir, c'est une ambiance de on veut découvrir un petit peu de nouveaux artistes, découvrir de nouvelles blagues. On met une ambiance de ces tests, donc il y a des trucs qui vont passer, des trucs qui vont pas passer. Mais c'est trop bien. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que t'es venu à la soirée test, tu m'as dit que t'allais faire du sûr.
Ouais.
Et au final, t'as vu que tout le monde testait, donc tu t'es dit mais je vais pas faire que du sûr parce que sinon j'ai l'air du gars qui vient juste pour se la péter un petit peu, quoi.
Ouais, bah je viens en promo parce que j'ai le spectacle le 16 février, je reviens, il y a personne qui me connaît ici, donc je me suis dit toute la semaine je vais prouver à ces gens qui me connaissent pas que je suis drôle. Mais ouais, à une soirée comme ça, je me suis senti comme un nul, quoi. Je me suis dit bon, je vais jouer beaucoup cette semaine, je peux profiter de ça pour essayer de créer des trucs, de vivre un vrai moment avec eux au lieu de leur... Bah ouais, de me la raconter juste.
Mais au final, t'as prouvé que t'étais drôle avec du test aussi.
On essaye.
Bah ouais. De toute façon, moi, je te trouve drôle, sinon tu serais pas dans le podcast. Je t'aurais pas recommandé aux gens. J'aurais laissé ton message genre, ah zut, je l'ai pas vu. C'est vraiment dommage.
Bah merci, ça me touche beaucoup.
Bah avec grand plaisir.
Surtout pour un gars qu'on a vu autant. C'est ça, ouais. Ça fait combien de temps que tu fais le podcast?
Le podcast, je l'ai commencé en 2020.
Okay.
Mais je suis fan de stand-up depuis toujours. Je suis un énorme fan de stand-up. J'en consomme tout le temps. C'est d'ailleurs probablement un des seuls contenus culturels que je consomme.
Okay.
C'est pour ça que j'y connais rien, par exemple, en rap.
Ouais.
En musique en général, j'écoute des trucs, mais la plupart des artistes que j'écoute sont décédés, tu vois.
Mais t'en écoutes quand même beaucoup?
De musique, non.
Ok.
Parce qu'en fait, j'écoute, par exemple, c'est pour te donner un exemple, sur toute la période où j'étais à Montréal, je pense que de janvier à juin, j'ai pas écouté de musique.
T'écoutais que du stand-up?
J'écoutais que des podcasts de stand-up, aussi pour faire mon podcast, j'écoutais du stand-up.
Ah, okay. Genre tu t'es inspiré d'autres podcasts pour...
J'écoute des humoristes qui parlent, des conversations, j'écoute sous-écoute pour rire, des trucs ainsi.
Ouais.
Mais j'écoute toujours ça, j'écoute quasiment pas de musique, quoi.
Ok. Bah moi, j'ai commencé... autour de 2018, mais je pense que de 2013 jusqu'à à peu près l'année dernière, je consommais vraiment que de l'humour.
Ok.
C'est cool parce que genre aujourd'hui, je sais que je sais plein de choses, mais c'est pas très sain.
T'es en train de te dire que je suis pas très sain.
Non, pour ma part, en tout cas, ça l'était pas. C'est pour ça que j'ai commencé à me remettre dans d'autres choses, à écouter de la... Enfin, j'ai raté tellement de choses, genre PNL, je suis passé à côté. Parce que juste, j'écoutais des vieux albums des années 70 de Red Fox, mais c'est genre, tu te rends compte que, ouais, c'est ça, la culture, elle m'est passée à côté. Il y a PNL que j'ai raté. Un peu d'Adju. Tu connais d'Adju?
Je connais d'Adju de nom, mais.
Ben ouais, tu vois, tous ces trucs de culture pop que t'es censé avoir vécu avec les autres. Moi, je suis un peu genre, ok.
Ok.
Mais ça me fait un peu chier.
Ok. Que moi, pour le coup, pas trop.
Ok.
Parce que quand j'ai déjà écouté PNL, j'ai fait, je comprends pas ce qu'il y a autour.
Ok, bah.
Mais c'est le problème avec le rap, que je comprends pas toujours ce qu'il y a autour.
Ouais.
Mais c'est juste un art qui me touche.
Ça te
pas
touche moins, ouais, je comprends. Bah, moi, c'est vu les personnes avec lesquelles j'évolue, ça devrait me toucher. Et en fait, ça me fait chier que ça me touche pas comme okay. J'aime ce qui se passe, mais pas autant, que je suis pas autant dans le feeling qu'eux. Et ça m'énerve.
Ok, ouais.
Mais c'est con.
Mais donc, on l'a mentionné, tu vas jouer ton spectacle au Kings of Comedy Club le 16 février à 21h.
Ouais.
De quoi parle ce spectacle?
Ce spectacle parle de vous. Non, je rigole. C'est un genre de bouillon des pensées qui tourne dans ma tête en ce moment. C'est ce qui est dans, je pense que c'est ce qui est un peu dans l'air du temps pour les gens de ma génération. Je parle un peu de santé mentale, mais c'est marrant. Mmh. Je parle de ma famille, je me projette un peu sur l'avenir, un petit peu de d'éco-anxiété aussi, un petit peu. C'est ce genre de choses, mais c'est en constante évolution. Vraiment, c'est genre, je sais que ce soir, je vais tester des trucs que j'ai encore jamais dit, et puis des trucs que je fais actuellement le 16 février, ils seront plus là. Enfin, ça évolue. Enfin, tu sais comment ça marche, quoi.
Mais est-ce que c'est la première fois que tu vas jouer?
Une heure, ouais.
Une heure?
Ouais.
Première fois au Kings en Belgique?
Ouais.
Et t'avais pas eu envie de le faire avant à Paris, devant des gens qui connaissent un peu plus ou quoi? T'avais envie que ce soit la première?
J'aime bien l'idée que ce soit devant des gens qui me connaissent pas trop.
Ok.
Parce que je pense que ça va être plus honnête. Ça va être plus confrontant pour moi. Et ouais, plus challengeant et que...
Et tu vas avoir un vrai avis, quoi. Ouais. Un avis de gens que tu connais, qui t'aiment bien déjà de base.
C'est ça. Même au-delà de mes proches, mais même des pseudo-fans, si je puis dire, des gens qui m'attendent depuis quelque temps. Enfin, je veux vraiment que ce soit devant du tout nouveau, quoi. Des gens qui n'attendent rien et qui peuvent qu'être agréablement ou désagréablement surpris.
Ok, ça marche. Est-ce que, comme tu as joué principalement à Montréal, est-ce que tu as perdu du matériel que tu peux plus faire? Parce que c'est plus adapté ou t'avais quelque chose qui est assez universel? Par exemple, moi, quand je suis allé à Montréal, j'ai pas dû adapter grand-chose de ce que je faisais. Donc, quand je suis revenu, j'ai pas dû changer tant que ça. Tu dois changer des référents. Tu donnes un nom de magasin, tu utilises un autre. Si tu utilises un terme, tu vas utiliser un autre.
Ouais.
Mais en soi, j'ai pas dû supprimer du matériel, tu vois. J'avais pas un sketch sur le parc Jean Talon.
Ouais.
C'est un parc à Jean Talon, mais...
Non.
Le marché
Jean Talon, ouais. Habité juste à côté en plus. Non, des passages complets, non, c'est plus comme t'as dit, des référents, etc. Ça j'en avais quelques-uns. Mais après, j'écris beaucoup et ça change beaucoup et j'oublie des choses. Je sais que j'avais un set sur les parcs à Montréal, mais je pense que c'est quand même un set assez universel dans le sens où je pourrais le jouer par rapport au parc de Vincennes, non, aux autres Vincennes. Ah non. Ah, je sais plus.
Je sais pas te dire, mais connaissance en rap et en parc, c'est pas...
non, je suis en train de dire de la merde. Mais non, je pense que c'est assez universel. Tant que tu parles français, normalement, ça doit fonctionner plus ou moins.
Et t'es rentré quand de Montréal, en fait?
Mi-août. Okay. Fin août, le 20 août, j'étais à Paris.
Et comment s'est passé le retour à Paris?
C'est comme accéléré d'un coup, genre. C'est comme un gros coup d'accélérateur, parce que Montréal, c'est cool. Il y avait la possibilité de jouer, d'écrire, de tester avec un rythme gérable. Mmh. Alors qu'à Paris, je trouve que ça joue beaucoup et c'est dur de suivre le rythme. Enfin, il faut s'y réadapter, quoi. Là, ça commence à revenir. Mais je pense que j'ai aussi compris à quel point j'ai besoin de jouer par rapport à comment j'écris. Mmh. Genre là, quand je vais rentrer, donc je rentre la semaine prochaine, entre fin décembre et mi-février, j'aurais moins besoin de jouer que j'ai joué jusqu'à présent.
Ouais.
Et peut-être plus jouer sur du gros format, de faire des 20 minutes, des 30 minutes.
Bah, par exemple, ce soir, tu joues 5 fois.
Ouais.
C'est un fameux rythme quand même.
Ouais, mais c'est un truc que j'aime bien une fois de temps en temps.
Okay, ouais.
Et avant, j'avais un peu plus cette âme de « faut que ce soit comme ça tous les soirs ». Mais c'est pas forcément nécessaire, obligatoirement. Ça dépend de ce que tu travailles, de comment tu travailles, de si t'as besoin de muscler des trucs, de si t'as besoin de tester complètement. Ça dépend de d'où t'en es dans ta création.
Et est-ce que Montréal te manque?
Il y a des trucs de Montréal qui me manquent, mais je suis pas trop un gars nostalgique. C'est genre quand j'étais à Montréal, ma famille me manquait et tout, mais non, j'y retournerai le jour où je dois y retourner, mais non, je suis bien là où je suis. Non.
Ok.
Ouais.
Mais est-ce que ça te tenterait genre de faire un peu comme Nordin Gonzo a fait, Edgar Rive et tout, de venir genre au Zoufès jouer un spectacle à Montréal,
ouais, absolument.
Avec quelque chose de
ouais.
Une plus longue forme et venir un peu revoir les copains et tout.
Ouais, absolument. Ça, ouais, de ouf. Surtout que j'ai vraiment créé des relations à Montréal. Il y a plein d'humoristes que j'ai adorés, plein de gens aussi qui travaillent dans l'industrie, avec qui on a beaucoup connecté. Et puis le public montréalais, en vrai, il est différent de celui que je connais à Paris. Mais j'adore les deux énergies, mais Montréal, c'est particulier. Ils aiment autant les blagues que les humoristes, parfois. Tu sens que, genre, ils sont vraiment contents d'être là. À Paris, il y a une énergie que je comprends aussi de, frérot, des spectacles, il y en a 15 000 tout autour, donc je pourrais être ailleurs là. Il y a un petit peu ce truc-là que je comprends, parce que c'est vrai. Donc, il y a aussi ce truc-là où tu te dis, ben, il faut s'adapter, quoi.
Ok, ouais. La différence est là. Mais c'est vrai qu'à Montréal, au final, pour une ville si grande et si fan de stand-up,
ouais,
il n'y a pas tant de lieux vraiment pour le stand-up pur, pour le stand-up club. Pur,
ouais.
Il y a le Terminal, il y a le Bordel qui sont en stand-up pur, tu vois. Les autres, c'est des bars dans lesquels il y a du stand-up.
Ouais, et c'est pas... C'est le truc, c'est un peu, je pense que c'est un peu la fausse idée qu'on s'en fait en Europe. Mais c'est pas, à Montréal, c'est pas la capitale du stand-up, c'est la capitale de mon francophone, de l'humour. Genre, il y a plein d'autres choses qui sont mises en avant. Il y a plein de trucs, champ gauche, comme ils disent là-bas, c'est d'absurde, des concepts qui ont moins la possibilité d'exister sur des plateaux non officiels en France. Et je sais pas encore comment c'est en Belgique.
C'est un peu pareil. Je trouve que Montréal, c'est vraiment l'endroit où tu vois le plus de variété dans les styles,
ouais.
Et les gens viennent avec des trucs complètement fous.
Ouais.
Moi, c'est vraiment un truc qui me manque de Montréal, c'est de voir des gens qui arrivent avec un truc qui, des fois, je suis complètement à côté, hein, je ne comprends pas du tout, ouais, ce qui se passe.
S.O. Félix Gravel.
Ouais. Mais tu vois, qui viennent avec une proposition, quoi. Ouais. Il y a vraiment des gens qui tentent des choses, qui veulent évoluer, ouais, l'humour, que je pense qu'ici, on est un peu plus peureux de venir avec quelque chose de trop...
Bah, c'est plus conservateur.
Ouais.
C'est ça, enfin, je pense que ça... Bah, ça vient de la culture, on est le vieux continent avec une culture plus vieille, plus rigide.
Ouais.
Donc je pense que c'est moins naturel de proposer. Il y en a plein aussi, mais je pense que ça vient moins naturellement de proposer des choses un peu plus nouvelles.
Ouais. Mais je pense qu'ici, on se jugerait un peu plus, tu vois.
Ouais.
Puis à Montréal, les gens font « Ah, oh ouais, il a fait une niaiserie.
Ouais.
Il est venu,
ouais,
avec un truc, il a voulu tester de quoi. Ouais. » Et j'aimais bien ça.
Ouais, ouais, c'est cool.
Il y a des fois, tu vois des trucs complètement éclatés. Je comprends même pas quelqu'un ait pensé à faire, ouais, ça. Mais en même temps, t'es content.
Et pensé à le faire et les assumer.
Ouais, c'est ça. Mais t'es content que ça existe, ouais, un peu. Mais oui, à Montréal, il y a vraiment de tout. Je me rappelle, on était voir ensemble un spectacle au Minifest. Je dirais pas le spectacle parce que c'est pas spécialement cool pour eux. Mais moi, j'adorais parce que je trouvais que c'était une proposition absurde au possible.
Ouais, je me rappelle.
Et toi, tu t'es vraiment posé au bar. T'as regardé, t'as fait. Ouais, bon, allez, les gars, moi, j'y vais.
Ouais, 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 je me rappelle. Bah, tu sais, parfois, il y a des fois où, genre, je comprends pas forcément la proposition, mais il y a quand même de l'intérêt. Je me dis, ah, il se passe un truc que j'arrive pas à saisir et je vais rester et m'accrocher. Et ça finit par me prendre. Là, je sentais que c'était totalement hermétique. Et c'était genre, je vais pas rentrer dedans. Je suis juste en train de perdre mon temps. En plus, j'étais au premier rang et je me suis dit, mon visage, il peut les perturber. Mmh. Je suis tellement... pas dans le délire que...
C'était dans l'empathie de se dire, ah, ouais, ils me voient, ils vont pas passer, ouais, un bon moment alors que je suis content qu'ils fassent,
ouais,
ça,
ouais, ouais,
amusez-vous.
Ouais, ouais, il y en avait que je connaissais et tout ça, mais j'étais juste, ouais, non, je capte pas.
Je comprends. Que par chez nous, en tout cas en Belgique, parce que moi je connais pas assez bien la France, quand t'as quelque chose que tu trouves mauvais, c'est juste que c'est du mauvais stand-up où les blagues sont pas drôles, mais c'est pas une proposition que tu comprends pas ou qui est complètement folle, c'est juste... Soit il n'y a pas de blagues, soit les blagues sont pas bonnes, ou c'est du cliché, ou c'est du déjà vu, mais c'est pas souvent une proposition que tu comprends tellement pas la proposition,
ouais,
même, quoi.
Ouais, ouais, ouais. J'avais pas, ouais, réfléchi comme ça, mais depuis que je suis revenu, il y a rien que je n'ai pas compris. Mm-hmm. Il y a tout que j'ai été capable de juger, c'est bon, c'est pas bon, ou c'est pas encore ça, mais il y a rien où je me suis dit, c'est juste pas ma langue.
Je comprends. Est-ce que tu constates d'autres différences entre Paris, Bruxelles, Montréal, donc comment c'est fait, l'ambiance, tout ça? Tu disais, donc, Paris, il y a un peu ce truc de, le public se dit qu'il y a 1000 spectacles, donc.
Bah, il se le dit même pas consciemment, je pense.
Ok, ouais.
C'est juste, il y a du choix, il y a beaucoup de choix, donc.
C'est un fait, en fait.
Ouais. Donc, il y a, enfin, des gens qui viennent et qui comparent le truc, ils sont beaucoup parfois dans l'accusation du public de genre, oh, vas-y, ça raconte. Mais c'est vraiment pas ça. C'est juste que, il pourrait être un show de jazz, il pourrait aller voir une comédie musicale, il pourrait voir d'autres trucs de stand-up. Il y a 8 comédie clubs. Mmh. 8 comédie clubs et 50 000 soirées non officielles. Donc inconsciemment, c'est comme quand tu parles à quelqu'un et que tu te dis « je pourrais être sur mon téléphone ». Tu sais, il y a un truc de « faut choisir ». Quoi.
Et au niveau du public, tu trouves que le public, les gens sont aussi chaleureux en Belgique qu'au Québec?
Je sais pas encore. Parce que j'ai pas encore assez de références parce que j'ai fait quand même 3 ans au Québec. Là, j'ai une dizaine de scènes, ouais, belges dans les jambes. Mais je trouve que les gens ont l'air vraiment très chaleureux ici. Et ils ont l'air dans l'attente de vas-y, montre-nous ce que t'as. Tu sais, vraiment de on a envie d'écouter ce que t'as à dire.
Ok, ouais.
Ça, j'aime bien. J'aime beaucoup ça. Je pense que ça, c'est un encouragement à être chelou, à tester des trucs bizarres. Mm-hmm. Plus que dans des endroits où je jouais beaucoup en France. Où c'est un peu plus du vas-y, montre-nous.
Mais du coup, cette expérience de Bruxelles, c'est quelque chose que tu referais?
Ah ouais? Ah ouais, ouais, de ouf. J'étais en train de... Enfin, c'est pas encore très clair dans ma tête parce que ça fait que quelques mois que je suis à Paris, donc je suis même pas encore totalement réinstallé, mais je me disais que ça pourrait être cool de venir assez régulièrement. Je sais pas à quel point c'est possible, parce que il y a des rotations aussi, il y a plein de gens qui viennent, donc je vais voir, mais c'est une chance d'avoir autant de circuits différents dans un si petit, une si petite zone. Tu sais, il y a aussi Nantes qui est en train de se développer à mort, il y a Marseille, il y a Bordeaux, il y a Orléans que j'ai fait il y a pas longtemps. Enfin, il y a énormément
À Lille, il y a beaucoup de choses aussi.
Lille aussi. Il y a énormément de sous-cultures de l'humour et du stand-up qui sont en train de naître. Et genre, aller prendre des influences partout, c'est trop bien. Ça me fait penser au circuit américain où tu sais, il y a des humoristes qui sont juste à Atlanta et qu'ils peuvent faire leur carrière là-dessus. Mais ensuite, quand tu t'exportes et que tu vas à New York, bah, c'est un peu comme la musique, quoi. Il y a plein d'influences, plein d'énergies différentes, plein de types de blagues différents, plein de façons d'aborder les sujets qui ne sont pas les mêmes. Je trouve que l'humour, mais moi ce que je préfère c'est le stand-up, mais l'humour en Europe est francophone est vraiment en train d'exploser. C'est trop bien ce qu'on est en train de vivre.
Je suis trop d'accord avec toi. Moi à Bruxelles, qui est plein de lieux d'humour, moi je serais content que ça se développe hors de Bruxelles, parce que je suis pas de Bruxelles.
C'est possible, genre?
Bah ça commence à se faire. Il y a des, mais c'est pas encore des comedy clubs. Là je pense qu'avoir un comedy club hors de Bruxelles, c'est pas possible, parce que en termes de remplissage, ça va vraiment être compliqué d'installer, parce qu'il y a encore des gens qui connaissent pas le stand-up, tu vois. Mais il y a des comedy clubs qui s'ouvrent, des soirées qui se font, et ça se remplit bien. Mais ça évolue. Il y a quelques scènes à Liège, il y a quelques scènes à Charleroi, à Mons, il y a quasiment rien là où je suis. Après on me dit toujours mais fais-les toi-même. Je fais oui, c'est juste que moi j'ai pas ce truc d'aller voir des lieux et de faire du marketing et de développer, d'aller de faire le gars qui est ah je vais vous organiser une soirée, vous allez voir, ça va être
trop. Ah ouais, vraiment? Ah, j'aurais cru que si, moi.
Ah non, moi je suis bonjour, je peux jouer, merci.
Ah ouais,
ouais,
ok,
je suis très discret pour ça. C'est parce qu'on se connaît, hein, sinon je t'aurais jamais demandé de faire le podcast.
Ok. Ah, quand même, t'as demandé à des gens quand même que tu connaissais pas forcément, si.
Oui, c'est vrai, j'envoie. Là, c'est parce que j'ai la possibilité de le faire par message.
Ok.
Si je devais aller tous les voir à la fin de leur spectacle pour leur dire, hey, j'aime beaucoup ce que vous faites, ça me ferait plaisir de vous avoir dans le podcast, j'aurais eu moins d'invités.
Ok.
Parce que je suis un peu intimidé. Par message.
Encore aujourd'hui?
Ouais, ouais.
Même après avoir rencontré des gens que t'admirais, tu m'avais parlé d'Adib, que t'étais un inconditionnel.
Ah, mais ouais. Mais
même après l'avoir rencontré, t'as toujours pas pété la bulle de star.
Non, okay. C'est limite même encore plus. Parce que
ah ouais,
je lui ai parlé, je fais, ah, il est trop cool en plus. Tu sais, tu
t'espérais que ce soit un peu un salaud, genre.
Bah, ça, il y a quelque chose qui soit moins bien, juste, ouais. Et c'est encore mieux, tu vois. Ouais. Moi, c'est mon humoriste préféré tout court.
All time.
Je lui ai envoyé un message. Il m'a répondu tout de suite, genre, ok, on fait le podcast. J'ai fait l'épisode avec lui, j'ai adoré chaque seconde de l'épisode.
Mmh.
Quand je le partage, il le repartage. Je vois que des fois, il regarde mes stories. Je suis trop content.
Okay.
C'est mon humoriste préféré, tu vois.
Ouais, c'est genre, cool. C'est cool d'avoir accès comme ça aux gens qu'on respecte et qu'on admire.
Bah, à fond. J'ai eu Yacine Bellous dans le podcast, qui est aussi un de mes humoristes vraiment dans mon top. Il a participé à la campagne de financement pour le matériel aujourd'hui.
Ah ouais.
Jamel Comedy Club saison 1 que je regardais en étant ado, quoi. Et je suis là, waouh.
Un des gars qui t'a orienté vers le stand-up.
Ah, mais de ouf.
Ah, c'est cool. Ouais, c'est vrai que c'est cool.
Ouais, je trouve ça cool.
Il y a une phrase qui dit genre, il faut jamais rencontrer ses héros. Toi, t'es genre l'antithèse de ça.
Ah, moi, je suis l'antithèse de ça. Mais après, je les rencontre dans un contexte de. On fait un podcast, on les interviewe et on les met en avant.
Imagine, t'es un gros fan d'Astérix et puis tu vas rencontrer Gérard Depardieu. À mon avis, l'expérience, c'est pas la même.
C'est pas la même. J'avoue qu'il y a peu de choses pour défendre Gérard Depardieu. Je sais pas si t'as vu les images de complément.
Oh, oui. Wow, ouais, je l'ai regardé hier et c'était...
Je suis sûr qu'il y a tous les misogynes du monde qui ont regardé la vidéo et qui ont fait... Putain, mais même moi, j'arrive plus à le défendre.
La défense se retire.
C'est bon, lui, prenez-le. Ouais, on va défendre
on vous
les
laisse,
autres. Est-ce que j'aurais oublié de mentionner quelque chose par rapport à ton actualité? Est-ce qu'il y a autre chose qui est en développement?
Je suis dans le processus de commencer à créer du contenu vidéo.
Ok.
Parce que ouais, mon compte Instagram, c'est abusé.
Ah mais t'as 4 photos quand même, c'est pas mal quand même.
Je me suis fait engueuler par une dame du public en sortant du terminal.
Ah ouais?
Ouais, c'était, je crois que c'était, j'ai fait un 3x20 avec Fred Côté, Cyril Ives, et pardon, c'était un 4x20, Fred Côté, Cyril Ives et Radi au Québec.
Ouais.
Et ça s'est bien passé. Et en sortant, il y a une dame qui vient me voir. Ouais, où est-ce qu'on peut te suivre? Une dame un peu plus vieille. Où est-ce qu'on peut te suivre, fiston? Je lui donne mon Instagram. Et puis elle fait mine d'aller sur Instagram et de s'en aller. Et là, elle revient vers moi, elle me dit, ah non, 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 ça par contre, c'est pas possible. Va faire un truc, va falloir que tu fasses un truc, tu vas me changer ça. Et quand je reviens, il y a plus d'abonnés. Je vais travailler, madame.
Ça va. Mais t'as quand même publié aussi une vidéo où on te voit faire du stand-up. Il y en a une seule, c'est le sketch sur Jeffrey Dahmer, sur la série.
Ah ouais, je l'ai enlevé.
Tu l'as enlevé? Non, ouais. Elle est encore sur ton Facebook.
Non.
En tout cas, hier soir, elle y était encore.
Merde. Ok.
Merde. Mais okay. Elle est bien, la vidéo.
Ouais, mais je sais pas, c'est, je trouve que... Une vidéo, c'est cool, mais c'est juste une vidéo. Mm-hmm. Donc, dans ma tête, il faut que je sois dans un... Enfin, c'est un peu le jeu des réseaux sociaux actuellement. Il faut être dans un flux ou mieux vaut ne pas être là, quoi.
Ok, ouais. Mais est-ce que tu veux faire du contenu vidéo vraiment purement vidéo ou des extraits de stand-up?
Quoi que ce soit qui soit qualitatif et drôle.
Mais t'as pas encore fixé vraiment sur...
Ouais, je me suis pas encore posé sur un truc où je me suis dit « Oh, ça, je vais avoir le cran de le faire pendant 52 semaines. Mm-hmm. » Ou pendant 15 ans, ou juste... Il y a plein de trucs qui me viennent, c'est genre « Ah, ça, c'est cool !» Et 10 minutes plus tard, ça m'intéresse plus.
Ok, ouais.
C'est un peu le même processus qui fait que j'ai du mal à fixer des blagues parce que je suis tout le temps sur une nouvelle idée, un nouveau truc. Je me désintéresse vite. Je m'intéresse et me désintéresse vite.
Bon, ça serait moi, je conseillerais des extraits de stand-up parce que je trouve que ce que tu fais en stand-up, j'adore.
Ah, c'est gentil.
Mais c'est moi. Après, moi, je conseillerais à tout le monde de faire ça parce que c'est ce que je consomme le plus.
Ouais. Des micros.
Moi, c'est ce que j'aime vraiment le plus. Donc, quand il y a des humoristes qui font des vidéos, je fais ça, je trouve ça sympa.
Ok.
J'ai des vidéos qui me font rire, mais ce que je préfère, c'est quand ils font un passage de stand-up, quoi.
Mais des minutes, minutes 30, ou tu te poserais devant un 15 minutes de stand-up?
Ah, mais moi, je me pose.
Ouais.
Dans un truc de stand-up tout le temps. Genre, Farid qui a mis à son 20 minutes de stand-up sur YouTube, je l'ai bouffé.
Ok.
Moi, les captations, c'est le meilleur truc au monde. Les gens qui font des spectacles et qui captent pas leur spectacle, je suis énervé contre eux, tu vois. Ils ont fait un spectacle que j'ai pas vu.
Genre qui?
Je sais pas.
Ça se fait, ça?
Ouais, il y a des gens qui ont sorti des spectacles qui ont jamais filmé le truc, quoi. Ou que c'est pas disponible, quoi.
Je pense que c'est peut-être le temps que ça mûrisse aussi. Parce que moi, le truc que je dis souvent en ce moment, on me dit « Ouais, Jérémy, t'as une heure de spectacle. » C'est genre, j'ai la mixtape, mais j'ai pas l'album. C'est genre, c'est pas encore fixé. Donc oui, je peux jouer une heure, qui va être efficace, je pense. Mais est-ce que c'est une œuvre qui se tient de A à Z et que ça mérite d'exister en dehors de ma tête pour l'éternité? Je sais pas. Donc moi, si je capte rien, c'est aussi un peu pour ça. C'est parfois, je me dis, est-ce que ça vaut le coup d'exister ou c'est pas juste du contenu pour du contenu, quoi?
Mais voilà, moi, si je peux donner mon avis sur quelque chose.
Ok, c'est noté.
Ça me ferait plaisir de voir des extraits, parce que je vais pas aller à Paris tous les deux jours.
Ouais. T'as prévu d'y aller un petit peu?
J'aimerais bien.
Ouais.
Bien aller. J'ai regardé un petit peu pour y aller. C'est cher.
Ouais.
Pour loger sur place, mais ça me ferait plaisir d'aller faire quelques plateaux, d'aller enregistrer des podcasts là-bas.
Ouais. Parce que... Y a des humoristes qui t'intéresseraient?
Oh, il y en a plein.
Ouais.
J'en ai 1000 d'humoristes que je.
Ah, si tu peux m'en donner 5.
5. Celui que je veux le plus avoir, je le dis dans chaque épisode, et je crois qu'à un moment donné, je vais demander aux auditeurs juste de lui envoyer des messages. C'est Roman Frécinet.
Ah, tu l'as pas eu?
Non, pas encore.
Pourquoi tu lui écris pas?
Je lui ai écrit, à mon avis, un message toutes les 3 semaines, sur son Insta, un mail, j'ai contacté sa prod, j'ai demandé à des humoristes qui le connaissent pour voir s'ils pouvaient pas lui demander, machin. J'évite trop de le faire parce que ça fait un peu intéressé.
Ouais.
Mais son Insta, à mon avis, le joue. C'est juste qu'il le voit pas, hein. C'est dans ses messages, tu sais, dans la boîte générale avec tous les messages des gens que tu connais pas. Un jour, il va tomber dessus, il va dire, mais ce gars est fou. Il m'a envoyé.
Ouais, c'est possible.
Il m'a envoyé 200 messages, quoi.
C'est possible qu'il pense ça, puis il va voir, ah, mais on a tous ces amis-là en commun. Ah, mais il a fait ça. Mmh. Et il est super sympa. Enfin, je lui ai parlé deux ou trois fois, il est super sympa, il est abordable et tout.
Si tu le recroises, j'ai fait un podcast avec un Belge.
Ouais.
Qui est fan de toi.
Je pense pas que la décision viendra de mon conseil.
Non,
mais... s'il voit que t'as travaillé, enfin que t'as fait le podcast avec Adib et.
En vrai, je crois que c'est juste l'info qu'il est pas au courant, tu vois.
Ouais.
Je pense vraiment que s'il reçoit l'info et qu'il, en tout cas, il me répondra. Mais c'est pas un truc dehors. Il est pas sympa, il me répond pas. C'est juste qu'il a pas l'info.
Ouais.
Et j'ai juste pas accès à Roman Frécinet. Donc ça, je me dis, même je vais aller à Paris, je le croise.
Mm-hmm.
Et là, je me sors un peu les doigts du cul et je vais...
Et tu lui fais sentir. Non.
Et je vais lui parler. C'est une expression, je sais pas si on utilise ça que en Belgique.
Oui. Non, ça existe. Ouais.
Roman Frécinet, d'office, Farid.
Ouais.
Mais Farid, je lui ai déjà demandé. Il m'a plus ou moins dit oui, mais c'est fixer des dates qui est compliqué. Il n'a pas l'air contre l'idée.
Ok.
Douli. J'aimerais beaucoup. Elle m'a dit oui. Moi, après, j'ai demandé pour fixer des dates. Ça a été. J'ai plus de nouvelles trop, mais c'est juste des gens très occupés aussi. Je réfléchis dans les principaux. Il y a Merwan.
Ok.
Bélazar, quand il est venu à Montréal, je lui avais demandé.
Très très cool, lui.
Il est vraiment cool aussi. J'ai certes Mathurin qui m'avait dit oui. Il faut aussi que je trouve le moment parce que c'est des épisodes qui me prennent du temps à préparer. Donc des fois les gens me disent ah je suis libre demain et je fais non t'as pas compris ouais. Je vais peut-être passer deux semaines à faire.
Ok c'est ça. Ça pour moi par exemple ça t'a pris combien de temps?
Ah pour toi ça va. t'as quatre photos sur Instagram. Ouais. Tu vois. Ton Facebook je suis remonté jusque 2009.
Mon Facebook il existait en 2009.
Ton Facebook perso. Ton Facebook pro c'est 2018.
Ok, tu sais des trucs que même moi je sais pas. Ah. Ok.
Et du coup, j'ai même en remontant ton Facebook perso, ça prend pas longtemps, tu vois.
Ouais.
Alors que un Facebook de, parce que je vais peut-être faire un épisode avec Alex Vizorek, qui est un humoriste belge qui joue partout.
D'accord.
Il a fait des chroniques sur France Inter, il fait une chronique maintenant sur RTL, il a un spectacle, il a un livre, il a une émission télé sur France 2 maintenant. Donc il n'arrête pas en fait. Et donc trouver un moment pour enregistrer avec lui, c'est très compliqué. Et il fait ça depuis 15 ans. Donc il y a du boulot en recherche énorme.
Et ça c'est un truc qui te passionne aussi de genre de d'aller chercher ce qu'il y a derrière les humoristes quoi.
Ouais.
OK.
Mais parce que je regarde tout ce qu'ils font en fait.
OK.
C'est ça qui est trop cool. Donc, souvent je suis deux semaines sur un humoriste, j'ai vu toutes ses vidéos depuis le début. Et moi ça m'éclate parce que tu peux voir l'évolution aussi. Tu vois des fois des statuts Facebook éclatés de 2005 où il y a une petite blague.
Ce mec-là, il a fait l'Olympia.
Ce mec-là, il a fait ça. Ok, ouais, c'est ça. Et tu te dis, il y a de l'évolution. Mais en même temps, c'est chouette.
Ouais.
C'est chouette aussi de voir des vidéos un peu il y a longtemps, pas une bonne qualité de ouf ou des trucs ainsi, et que c'est pas incroyable.
De Jeffrey Dahmer, par exemple.
Mais elle est bien. Ça, moi, je l'aime. mais tu vois ce que je veux dire, ouais, de voir que ils n'ont pas toujours été la personne que j'idéalise maintenant de ces
lissés, polissés, super beaux, magnifiques, enfin un beau produit.
Oui, c'est ça, t'as l'impression, mais c'est comme ceux qui ont découvert Paul Mirabel quand il a fait son Montreux, ils se disent mais il a jamais fait de il commence le stand-up. Mmh. Non, c'est un gars qui bosse depuis des années, qui joue énormément et qui si tu l'avais découvert il y a 4 ans, t'aurais peut-être trouvé ça mauvais. Mais maintenant il est bon parce qu'il a continué, il a bossé et tout ça, tu vois.
Ouais.
Mais je trouve ça génial de revoir, ça c'est rassurant, il y a un côté cool. Donc moi j'aime trop savoir les histoires des humoristes.
Ah ouais, c'est ça, il y a le côté rassurant, c'est est-ce que tu te dis genre moi aussi je vais en arriver là, enfin ouais. OK.
J'espère ça.
C'est ce truc là qui te rassure, OK. Ouais.
Par exemple genre Kian Kojandi qui explique dans plein de podcasts qu'il était ultra anxieux, qu'il a fait des crises d'angoisse, c'était un combat de monter sur scène tellement il était angoissé et tout ça, ouais. Et moi je me dis mais c'est génial, c'est pas que moi qui suis stressé.
Oui, tu m'avais dit ça à Montréal que tu ressentais ça aussi.
Ouais, mais moi je me dis mais ça tombe, je peux pas faire humoriste, je suis beaucoup trop stressé, les gens sont tous détendus autour de moi, je suis un petit peu hors du truc. Et en fait il y a d'autres humoristes qui sont ultra paniqués de monter sur scène, tu vois.
Ouais.
Et moi ça c'est rassurant de se dire je suis pas tout seul.
Et aujourd'hui comment tu te sens?
T'aimes bien poser des questions, c'est marrant. Ouais, c'est cool. Non, j'ai pas l'habitude, c'est parce que d'habitude, c'est les gens me posent moins de questions. Maintenant, je me sens beaucoup mieux au niveau du stress. Ouais. Parce que j'anime des soirées aussi. Ça va faire une énorme différence, surtout avec Montréal. Parce que j'animais au Bistrot de Paris, qui était quand même pas la scène la plus facile à l'animation.
Ouais, c'était un peu rodéo, mais Montréal, je sais pas si c'est comme ça ici, mais il y a peu d'endroits qui sont pas bienveillants. Mm-hmm. Même quand c'est un peu difficile, c'est jamais des publics hostiles. Donc c'est bien pour se mettre dans ce genre de situation.
À fond.
Ouais.
Mais du coup, je suis plus à l'aise maintenant, par exemple, pour donner une différence. Avant, je savais pas manger de la journée. Genre la veille au soir, j'étais pas bien. Maintenant, je mange avant de monter sur scène.
Ok.
Il y a pas de souci.
Ouais, c'est ça. Bah moi, quand je t'ai vu l'autre jour au réservoir, avant, je me disais c'est vrai qu'il est un peu stressé. Là, à aucun moment, j'ai pensé à ça.
Ok. Mais avant, quand je suis au réservoir, je suis stressé que la soirée se passe bien. J'ai envie que tout se passe bien.
Ouais, t'es en mode travail, quoi. Enfin, genre, oui, c'est normal ça.
Mais je suis encore stressé, mais par rapport à avant, rien à voir. Après, quand j'ai une heure de trajet pour aller à une scène, si j'ai 10 minutes, je le répète 6 fois dans la voiture.
D'accord.
Donc je suis quand même encore... Je suis pas dans ma voiture en train d'écouter Eminem et faire « Yeah !» Et bien maintenant qu'on est revenu sur ton actualité, on va revenir sur tout ton parcours.
Ouais.
Mais ça, j'ai besoin de savoir, parce que ça, je ne l'ai pas trouvé. J'ai besoin de savoir, tu es né où et quand?
Je suis né à Paris. En 1992.
Le 19 novembre.
Octobre.
Ah, octobre. Je savais que c'était pas loin. Ça marche. C'est pour ton Wikipédia plus tard.
Ah ouais.
Les gens iront le repêcher et marquer les sources. Humeur humoristique, épisode Jérémy Huppé.
Yes,
épisode,
sir.
Je ne sais pas combien. J'ai pas numéroté les épisodes, j'aurais dû.
Ah ouais, tu devrais, ça c'est cool.
Mais je pense que t'es 79e humoriste.
Ok.
Ou 80e. C'est dans ces eaux-là.
Ça fait beaucoup quand même. Ouais. Beaucoup de boulot.
Oui.
Respect.
Est-ce que, enfant, t'étais déjà quelqu'un de drôle?
Ouais. Enfin, j'aimais bien faire le pitre. Bah, ça arrive toutes les semaines que ma mère, elle m'envoie une photo où je suis avec tous mes frères et mes cousins et je suis le mec qui fait les oreilles d'âne ou tu sais, ce genre de trucs. Enfin, j'aimais bien faire le con. Bah, ça m'est arrivé souvent d'être drôle. Ça m'est arrivé de, d'être dans des groupes où j'étais pas le plus drôle, où j'étais plus drôle. Mais je pense que le truc qui me démarquait, entre guillemets, c'est que je pense que j'ai toujours été celui qui appréciait le plus être drôle. Genre, pour moi, c'était plus important que même les mecs qui sont super drôles, tu sais, ils s'en foutent un peu. Enfin, dans les groupes où j'ai été, ils s'en foutaient un peu. Mais moi, j'étais genre, yes, j'ai eu un rire. C'est une façon d'exister que j'ai toujours aimé, genre.
Ok, c'était ta façon à toi d'exister.
Ma préférée.
Ok, ta préférée.
Ouais.
Et est-ce que ton entourage, tes parents, tes frères et sœurs sont des gens drôles?
Ouais, hein, franchement, ouais. Il y a des fois où je regarde des vidéos de moi sur scène, on dirait que j'ai... Dans les moments où je me sens le mieux, on dirait un peu que j'essaie d'imiter mon père.
Ok.
Ouais, mon père, c'est, je pense que c'est le premier gars que j'ai vu faire du stand-up. Hein. Tu sais, genre, à des repas de famille, il racontait des trucs, puis il se lève et il incarne des personnages et tout. Il a vraiment ce truc inné que je trouve... Ouais, il est trop marrant, mon père.
Ok, c'est marrant. Et ta maman?
Ouais, aussi, mais elle a un humour un peu plus sardonique, je dirais, un peu plus sec.
Ok.
Ouais. Après, ouais, mes frères aussi sont marrants. Mon grand frère, il prend beaucoup de place, c'est un grand showman. Mon petit frère, il est plus comme ma mère, genre.
Et est-ce que t'allais voir des spectacles où tu regardais beaucoup de comédies à la télévision ou c'était pas vraiment dans les habitudes chez toi?
Non, j'aimais bien voir des gens sur scène. Je me rappelle les premières fois... Quand j'avais vu, je sais pas si tu l'avais vu ce film, Le Professeur Folding avec Eddie Murphy.
Bien sûr.
Ouais.
Bien sûr, oui.
Bah, c'est un des films qui m'a le plus marqué.
Un des films les plus grossophobes de l'histoire du monde.
Ouais, je l'ai revu il y a peut-être 2 mois et j'étais en mode, ah ouais.
C'est violent.
Ouais. Mais quand j'étais petit, bah, j'étais.
Il y a un passage d'ailleurs avec un stand-upper qui le vanne dans
et
le.
C'est Dave Chappelle.
C'est Dave Chappelle qui a mis des fausses dents?
Ouais. Des fausses dents et un chapeau et tout.
Je savais pas ça. Et du coup, quand il perd le poids avec le truc, il revient ridiculise. Et il le défonce. Ouais.
Mais tu sais que ce truc-là, c'est genre c'est une version comique de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est comme ça que ça a été pensé. À la base, c'est un remake d'un film de, comment il s'appelle? Jerry Lewis, je crois. Et l'idée vient de Dr. Jekyll et Mr. Hyde.
Ok. Ouais. Ah, j'aimerais bien le revoir juste pour
dire
à quel point c'est.
Je te le conseille. Tu rigoles vraiment. Deuxième, troisième degré.
Ah oui, bah j'espère.
Ouais.
C'est rigolo, premier degré. Waouh. Ah, t'as évolué ces dernières années. Ouais. Ah, waouh. C'est vrai que, ouais. Bah, en fait, les films d'Eddie Murphy en général.
Ouais, ouais.
Quelques-uns. Je sais pas si Norbit.
Ah, je l'ai pas revu, faut que je l'envoie. Ouais. Il se moque des personnes grosses. Il se moque des. Je crois qu'il joue un personnage qui est censé être pas beau. Il fait une grimace pendant tout le film. Mm-hmm. C'est ça, Norbit.
Norbit, c'est pas celui qui est énorme. Non, ça c'est Big Mama.
Ah oui, ça c'est Martin Lawrence.
Ça c'est Martin Lawrence.
Ouais.
Ok.
Le boss des années 90. Et oui, excuse, on parlait de Professeur Folding. Dave Chappelle, c'est la première fois que j'ai vu du stand-up. C'était dans cette scène de film.
Ok.
Et elle m'a toujours marqué. Et c'est la première fois que j'ai vu Dave Chappelle faire du stand-up sur scène. Enfin, le premier spectacle de lui que j'ai vu, que je me suis dit, vas-y, il faut que je le fasse. Tu sais, il y a vraiment eu cette espèce de boucle où ça a germé dans ma tête quand j'ai vu le film. Enfin, je sais pas, c'était genre en arrière-arrière-plan. Et quand j'ai vu le spectacle, j'étais genre, faut que je le fasse.
Ok, et c'est en quelle année, tu dirais, plus ou moins? T'avais quel âge? Quand t'as vu le spectacle, tu t'es dit, c'est ça que je veux faire.
Le spectacle, il date de quoi?
C'est genre adolescence ou c'est enfance?
Ça devait être autour de 2000, entre 2006 et 2011. J'avoue, c'est pas très. C'est une grosse fourchette, mais. Ouais, c'est le spectacle.
Plus adolescence, quoi.
Ouais. Okay. Ouais.
Parce que moi, en remontant sur ton Facebook, ça me fait rire parce que tu sais, on mettait des statues à l'époque sur le mur.
Oh, okay.
Et c'est juste marqué Chappelle Show. C'est tout.
Il y avait une époque où je partageais des vidéos que j'avais vues. Mm-hmm. Peut-être que c'était. J'avais partagé un lien et qu'il a sauté depuis.
Ah, c'est possible. Sais pas. Après, il y a quelques liens de vidéos de Dave Chappelle,
ouais,
il y a Chris Rock.
Ouais.
Thomas N'Gijol,
pas mal
aussi.
Ouais.
Est-ce que c'était vraiment des gens qui t'ont marqué, qui ont été importants?
Le plus vieux souvenir que j'ai, c'est celui de Dave Chappelle dans Professeur Folding. Mmh. Ensuite, il y a eu la première saison du Jamel Comedy Club, mmh, où j'avais bien aimé Thomas N'Gijol, j'avais apprécié son énergie et tout.
Avec le sketch du Superman noir.
Ouais, il y avait ça, les Jeux Olympiques d'hiver, mmh, son sketch sur le Cameroun aussi que je trouvais en main. Et je sais pas, après j'avais dû lire quelque chose ou l'entendre parler dans une interview de Richard Pryor. Et à partir de là, jusqu'à ce que je rentre dedans, je suis plus jamais retourné à l'humour français, genre.
Ok, ouais.
Je suis parti, j'ai découvert Richard Pryor, et puis j'ai entendu parler de tous ces enfants artistiques un peu, et c'est là où je suis devenu un grand malade, genre, tiens, me coucher à des 4 heures du matin, aller débusquer des albums obscurs de Red Fox, qui est un des gars qui a influencé le mec qui a influencé Richard, enfin, tu sais,
okay, ouais,
tout ce truc-là, et voilà.
Plutôt humour américain.
Ouais. Même l'humour français, je redécouvre en fait, c'est des trucs comme Les Nuls et tout ça, je connaissais pas très bien, voire pas du tout. Et aujourd'hui, c'est mes potes humoristes ou autres qui me remettent dans cette culture, et il y a trop de trucs trop bien que j'avais juste négligé en fait.
Donc toi, t'as vu les spectacles, tu t'es dit, il faut que je fasse ça, mais est-ce que c'était genre vraiment actif dans ta tête de, il faut que je fasse de la scène, il faudrait que je fasse du théâtre, faudrait que je...
Ouais, non, c'était le stand-up.
C'est vraiment stand-up, ouais. Stand-up pur.
Oh ouais. J'aime toutes les façons d'être drôle. Uh-huh. J'aime même les musiques humoristiques et tout ça. Uh-huh. C'est ce que fait Mr. V, par exemple. Je sais pas si
ouais, j'adore.
J'aime vraiment... j'aime toutes les formes, en général, je pense, les classiques. Mais ouais, c'est ça, a toujours été le stand-up, en premier lieu.
Qu'est-ce qui a fait que, que tu t'es pas lancé, tu t'es pas dit, oh, je vais en faire dans mon école, je vais en faire...
Je me rappelle, à l'époque où j'ai eu l'idée, ça germait dans ma tête, mais c'était juste, genre, c'était pas conscient, vraiment. C'était genre comme un rêve inavoué. Et j'avais mon pote d'enfance, on est encore très amis aujourd'hui, on passait beaucoup de temps ensemble, et à chaque fois qu'on était ensemble, il se passait un truc. Je me rappelle, souvent on revenait du lycée ensemble, on prenait le RER, et les discussions qu'on avait, il y avait des gens dans le métro ou dans le RER qui participaient un peu. Tu sais, il y avait comme un truc où genre, putain gros, quand on est ensemble, on est marrant, on devrait commencer ensemble. Et c'était pas son truc à lui. Mm-hmm. Et il m'avait dit, ouais, non, c'est pas pour moi. Et ça m'a empêché par trouille de me lancer tout seul. C'était ça m'a fait prendre quelques années avant de me dire, bah écoute, il a pas envie, je vais le faire tout seul.
Ok, ouais. Mais tu faisais un peu un brainstorm d'humoriste en discussion, de trouver des blagues en fait.
Ouais, c'est juste, tu sais, la manière dont on était drôle, elle était pas drôle que pour nous, elle était aussi drôle pour des étrangers. Et ça, je trouvais ça vraiment trop, trop cool, quoi.
Et tu as fait quoi comme études ?
J'ai fait... En obtenant mon bac, je suis parti vivre un an à Londres dans un institut de langue.
Trop bien.
Ouais, c'était sympa. J'ai surtout appris à être très très sous en anglais.
C'est trop bien. Mais donc, t'as été là-bas ?
Ouais.
Ok.
C'est dans un institut de langue qui s'appelle, je sais pas si ça existe encore, ça s'appelle LSI, où je faisais que de l'anglais toute la journée. Mm-hmm. Et le soir, j'allais boire de la Guinness.
Ok.
Après ça, j'ai fait un concours pour rentrer dans une école de commerce.
Ok.
Donc, je fais une école de commerce en 5 ans. J'ai un master 2 en commerce international.
Oh, tu dis ça avec une détente.
Oh. Bah,
bon.
C'est un diplôme, ça ne veut pas dire grand-chose. Que...
Ouais, bah. Ça reste à rester des études et tout. Ouais. Bah, c'est cool.
Ouais, c'est sympa.
J'aurais jamais su faire des études d'une école de commerce, tu vois.
Pourquoi ?
Bah, déjà, je n'ai pas l'intérêt. Moi, quand ça ne m'intéresse pas, j'aurais jamais su faire des études de quelque chose qui ne m'intéresse pas, tu vois.
Ouais.
C'est pour ça que j'étais que prof de langue. Parce que les langues, j'ai toujours compris pourquoi on devait les apprendre.
Ouais.
Tu veux parler anglais, bah tu dois apprendre comment on parle anglais, c'est tout. Uh-huh. Tout ce qu'on apprend, peu importe pendant n'importe quel cours, tout ce que tu apprends, tu l'utilises à un moment donné.
Ouais.
Tout le reste,
c'est toujours pratique, quoi.
C'est ça.
Et le néerlandais, tu parles ça d'où ? Enfin, pourquoi ?
Bah parce qu'en fait, quand c'est ma première langue qu'on apprend à l'école. Enfin, moi, je l'ai appris d'abord en première langue à l'école parce que c'est la deuxième langue de la Belgique.
Okay.
Enfin, il y a trois langues officielles en Belgique. Donc, le français, le néerlandais et l'allemand. L'allemand, il est très, très peu parlé. C'est 300 000 personnes en Belgique. Après, les deux autres langues, c'est...
50-50.
50-50, ouais. Et moi, j'ai appris ça en primaire, puis en secondaire. Puis après, quand tu fais des études pour faire prof, qui a un bac en 3 ans, tu fais les deux.
Okay.
Et anglais, néerlandais, en fait. Donc,
t'es fluent les trois.
Je suis en néerlandais, je suis pas complètement fluent. J'aimerais bien parler mieux. En anglais, ouais. Mais en anglais, je fais les stand-up en anglais aussi maintenant.
Ouais.
Depuis quelques années. J'adore ça. Ça m'éclate.
Ok.
Et toi, t'as jamais fait stand-up en anglais ?
Si, j'en ai fait quelques fois à Paris avant d'aller à Montréal. Et une fois à Montréal. Et une fois à New York.
Ok.
Ouais. Dans un open mic à New York, j'y étais allé en 2018.
Okay.
Je me suis sign up, ça avait très bien marché, mais je pense qu'il y avait un peu un délire de « Ah, il est français !»
Ok, ouais.
Mais c'était cool.
Mais à Montréal, t'en as pas tant profité que
non,
ça
Non, pas tant.
Il y avait des trucs cool.
Ouais, il y avait des trucs cool, mais la fois où je l'ai fait, ça avait été un petit peu compliqué, je sais plus pourquoi. Juste de s'inscrire et tout, ça a l'air... c'est un peu plus opaque comme façon de fonctionner par rapport au système francophone. Et je jouais tellement qu'à un moment, je me suis dit « Bon, je vais me concentrer là-dessus. » Mais je garde un peu dans l'idée de m'y mettre plus tard, quand j'aurai... réaliser ce que je pense que j'ai réalisé en français.
Mais je pense que même à Paris, il y a de plus en plus de scènes
ouais, ça
anglophones.
Se fait. Ouais.
Mais à Bruxelles, il y en a plein.
Cool.
Genre, avant que je parte de Montréal, il devait y en avoir peut-être 2. Maintenant, il y en a genre 7, tu vois.
Et il y a beaucoup de gens qui parlent anglais à Bruxelles ?
En fait, comme il y a la Commission européenne,
ouais.
Il y a beaucoup de gens qui viennent un peu du monde entier, puisque comme capitale de l'Europe, t'as tous les pays qui viennent un peu.
Ouais, ouais.
Donc, il y a beaucoup de gens qui sont là. Il y a beaucoup d'expats, mais à Bruxelles. Tu quittes Bruxelles, il n'y a personne qui parle anglais.
Okay.
Enfin... Il y en a beaucoup, beaucoup moins.
Ouais.
Donc, d'office, ça se fait à Bruxelles, quoi.
Et c'est combien de gens en tout, la Belgique ?
On est 12 millions.
Ok.
Ouais. Je crois que c'est 5 ou 6 millions de Flamands, 5 millions de Wallons et 300 000 de germanophones.
Ok.
C'est vraiment une petite communauté à la frontière avec l'Allemagne.
Ok. Voilà,
c'était le petit point géographie de la Belgique.
Ouais, et un peu histoire aussi, il faut que je me renseigne là-dessus. J'y connais rien et c'est humiliant un peu.
Oh bah, l'histoire de la Belgique, ça va être très. Il n'y a pas que des belles choses à raconter.
Il y a des choses que je sais. Ouais.
C'est le moment malaisant pour moi.
Ah, écoute.
Bah, j'étais pas là.
Ouais, c'est ça. Il n'y a personne de responsable ici. T'es vraiment gêné, mais c'est bon.
Mais non, mais ça me fait juste.
On va se venger. Non, je rigole.
Aujourd'hui.
J'appelle mon frère. Attrape-le.
Il paye pour tous les autres. Qu'est-ce que j'allais dire ? Mais donc, comment t'es arrivé à faire du stand-up ? Comment t'es arrivé à faire ta première, toute première scène de stand-up ?
Ma première scène de stand-up, je venais d'obtenir mon master et j'étais pas heureux. Et je me suis dit, en vrai, ça fait presque 10 ans que t'y penses. Essaye pour voir. Et genre encore aujourd'hui, je fais des cauchemars. Enfin, pas des cauchemars, mais il y a des moments où j'ai vraiment peur, où je pense à, putain, imagine, tu t'étais pas décidé à le faire. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu serais aujourd'hui ? Parce que j'ai fait ma première scène, et j'en ai fait une ou deux, ou peut-être trois. Et ensuite, j'ai décroché un boulot, où je travaillais dans une start-up et tout. Et j'étais commercial. Et en vrai, ça se passait plutôt bien. Mm-hmm. Tu sais, tu touches des primes en tant que commercial, tu te fais de l'argent et tout. Et la première prime, c'était cool, je me suis fait de l'argent. Et puis, je me rendais compte que ça me rendait vraiment pas plus... Ça me rendait pas aussi heureux que je me serais dit, genre, oh, putain, là, c'est possible d'être riche. Mm-hmm. Mais ça m'excitait pas du tout. Puis, je repensais à les deux ou trois fois où t'es monté sur scène, où t'as dit des trucs devant des gens qui te connaissent pas. Le degré de joie, entre guillemets, que je ressentais, ça me paraissait évident. Donc, j'ai arrêté.
Et c'était deux, trois premières scènes que t'as faites, ça s'est bien passé à chaque fois ?
Ouais. Je veux pas dire que c'était des cartons, ce serait mentir. Mais à chaque fois, c'était plutôt encourageant. Sinon, je pense pas que j'aurais continué.
Ok.
Je sais pas.
Mais est-ce que tu te rappelles de ce que tu parlais dans tes premières scènes ? Genre, ta première scène, t'avais dit quoi ?
Je faisais une blague. Il y avait des blagues sur les dictateurs africains.
Ok.
Je parlais d'Instagram et je parlais d'imaginer le concept d'Instagram dans des endroits défavorisés. J'avais des blagues un peu... J'avais ça, c'est ce dont je me souviens. Je parlais de l'Afrique. Ouais, j'avais beaucoup de blagues sur l'Afrique, le franc CFA, je faisais des blagues là-dessus. La colonisation.
Donc t'as fait des petites scènes, tu voyais que t'étais pas heureux dans ton boulot, tu t'es dit je vais me lancer à fond dans le stand-up.
Ouais.
Et comment ça s'est passé ? T'as joué beaucoup à Paris ? T'as commencé à organiser des shows toi-même
ou... Déjà, il a fallu que j'en parle à mes parents, c'était technique ça.
Oh oui ?
Ouais.
Comment ils ont réagi à ça ?
Vraiment bien, genre.
Je ne leur ai plus jamais parlé.
T'imagines ? Non, en vrai, mes parents, ils ont, tu sais, c'est la génération d'au-dessus, ils sont très orientés sur les études, mm-hmm. par rapport au fait qu'eux, ils ont fait des longues études, que tout le monde dans ma famille, plus ou moins. Et le contrat... C'était en obtenant mon bac, je devais faire des études, ce que j'ai fait, et ensuite trouver un bon boulot. Mmh. C'est aussi ce que j'avais fait. Puis je suis allé leur dire, je veux faire du stand-up, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça ma vie, si je suis un artiste. Et ils étaient genre, ok, comment on peut t'aider ? Et j'étais genre, hein ?
Oh, wow.
Ouais, non, moi j'étais en mode, non, je me suis préparé pour la bagarre, j'avais tout un argumentaire, j'étais prêt à débattre et tout. C'était genre, t'as rempli la part du contrat, maintenant, si ton bonheur il est ailleurs, si on peut t'aider.
Ah, oh, waouh.
Ouais. Les deux, et j'étais genre, encore aujourd'hui, tu sais, ils sont à fond derrière moi et tout. Trop bien.
Bravo, monsieur et madame Yipe.
De ouf.
Je comprends que c'est plus facile à partir du moment où tu as déjà fait les études.
Ouais, il y a un truc.
Ils disent, si ça fonctionne pas, ou si tu veux arrêter, t'as quelque chose sur lequel revenir.
Un plan B.
Si t'as fait aucune étude, c'est plus stressant pour des parents qui veulent ta sécurité, quoi.
Mmh,
mais c'est trop clair. Bien qu'ils aient réagi comme ça, c'est top.
De ouf. Encore aujourd'hui, on en parle, ils sont en mode, normal en vrai, c'était le contrat. Tu sais, je pense, s'il y a beaucoup de gens qui ont pas la chance, enfin, je sais pas, si j'ai entendu quelques histoires de gens dont ils ont pas le soutien, genre, inconditionnel de leurs parents dans ce domaine. Moi, c'est une chance que j'ai, donc je suis trop content, mais eux, ils se rendent pas trop compte. C'est genre, on fait notre boulot, quoi.
Non, mais moi, j'ai déjà entendu dans le podcast, je sais même plus dire spécialement qui, mais il y a des parents qui c'était vraiment compliqué de leur dire, je vais faire de l'humour. Il y a des gens qui sont pris un peu la tête, il y a des gens qui comprennent pas, il y a des gens qui étaient Bah, par exemple, là, je me rappelle, c'est le, bah, c'est Adib. La mère d'Adib, elle avait dit, j'ai prié pour que tu ne sois pas pris à l'école nationale.
Ah ouais?
Je priais pour qu'on ne te prenne pas, que tu fasses pas ça.
Et aujourd'hui,
c'est probablement l'artiste le plus reconnu dans le stand-up au Québec, quoi. Mais, elle l'a vraiment dit, genre, je priais pour que tu sois pas pris à l'école nationale. Ah ouais.
Et est-ce qu'il t'a dit comment c'était maintenant? Est-ce que maintenant elle est genre?
Ah, maintenant, c'est sa plus grande.
Ah, trop bien.
Si je me rappelle bien, Elle est fière de lui et
trop
tout,
bien.
Mais en même temps, comment tu peux pas être fier de Adib, quoi?
C'est clair. C'est clair.
En plus, il parle de leur histoire et tout, donc c'est aussi une voix pour la communauté et tout, qui fait plein de choses super cool.
Ça, ouais, il raconte des histoires qui n'ont jamais été racontées avant ça au Québec, mm-hmm. et il les fait briller comme il faut, genre.
Je sais pas si t'as vu quand il est venu à Tout le monde en parle, qu'il parle de racisme et tout.
Non.
Je le trouvais passionnant. Et pour le coup, c'est quelqu'un qui peut en parler. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Il a vécu, il connaît, il a dû apprendre le français, il est québécois, c'est devenu une star québécoise, il a fait tout un spectacle sur...
Québécois tabarnak.
Ouais, sur l'identité québécoise et tout ça, quand on vient de l'étranger, d'un père qui parle pas français et tout, donc il est légitime d'en parler, et puis moi, dès qu'il parle, je suis content, mais on a déjà discuté, hein, je suis beaucoup...
Fanboy.
tellement fan de...
C'est cool, hein, c'est bien.
D'Adib, j'ai commandé son livre, là.
Il a écrit un livre.
Il a fait de la musique. Il a sorti un album. En fait, il y a un livre qui reprend tout le spectacle. C'est l'ensemble, tout le texte de son spectacle.
Right. Ok.
Du spectacle québécois tabarnak. Uh-huh. Et maintenant il a un nouveau spectacle qui s'appelle Des putes et des voleurs.
Je pense que j'ai vu un morceau au bordel.
Moi, je suis allé le voir. Je suis allé voir le spectacle en rodage.
Ouais.
Je l'ai vu. J'ai failli prendre ma place pour le lendemain. J'avais une soirée avec plein d'amis et tout. J'ai failli annuler. J'ai fait genre, je veux.
Ok.
Tu sais, quand tu hésites vraiment à dire à 15 personnes que t'aimes beaucoup, je vais vous laisser là. Je vais aller voir un spectacle.
Ouais.
Mais moi, j'adore. Je suis beaucoup trop fan.
C'est trop stylé.
Je suis allé le voir. Je pleure de rire. J'ai été voir avec des collègues qui m'ont fait calme-toi.
J'ai pas envie de spoiler sa blague, mais enfin, j'ai juste une phrase de lui qui résonne dans ma tête. Je pense qu'elle est dans ce spectacle-là, donc je vais pas le spoiler, mais...
Est-ce que c'est...
Oui.
Oui.
Oui, c'est ça.
On s'est compris en un geste. Moi, j'adore. Et donc, après cette première scène, est-ce que toi, t'as aussi organisé des shows? Parce que je voyais que tu mentionnais pas mal le Sweet Home Comedy.
Ouais, à un moment, c'était en 2000... C'était fin 2018, début 2019.
C'est ça.
Ouais. Dans les six premiers mois, j'organisais un... Enfin, je faisais partie d'une troupe. J'organisais pas très bien, j'avoue. Moi, je suis pas très bon dans la logistique. Mais je faisais partie d'une troupe où on organisait toutes les deux semaines à la cantine du 18e, resto-bar, une soirée où on testait des blagues. Et dans cette troupe-là, il y avait Ike, qui aujourd'hui, il est résident au Paname. Il a son spectacle et tout ça. Paris, ça tourne bien. Très marrant, très sympa. Il y avait Guillaume Dolé, Yazid Assoumani, avec qui on est très potes aujourd'hui. On l'était à l'époque, mais c'est toujours en contact et tout. Je lui parlais encore tout à l'heure. Il y avait Paul Mirabel, Blague Adam aussi, Panam, Clem. Enfin, ouais, plein de gens qui continuent encore aujourd'hui, qui sont très bons, très marrants et tout. C'était vraiment très cool.
Bah, top. Et après, en 2019, tu crées ta page artiste. Tu participes au concours Artichaut à Nanterre.
Ah ouais.
Tu remportes le prix du jury.
Ouais.
Tu remportes aussi le best-of des auditions publiques au Café Oscar.
Ouais.
Est-ce que t'as aimé ça, genre les concours d'humour? Parce que ici, t'as fait aussi le Comédia Fest cette année, en 2023.
Ouais, oui, à Québec.
Le concours Jeunes Talents.
Ouais.
Est-ce que t'aimes ça, cette ambiance concours d'humour, ou c'est quelque chose que tu dis, il faut les faire, donc je les fais?
Avant, je me posais pas la question. Et depuis que j'ai l'impression d'avoir un peu plus cartographié ce que c'est l'humour, à quoi ça doit ressembler et tout, je suis plus trop à l'aise avec le concept, mais ça fait partie du jeu. Pour certains, ça dépend ce dont tu as besoin, à quelle étape de ta carrière. En fait, j'aime toujours le public, donc je suis toujours content de jouer. C'est genre, tu viens jouer devant 250 personnes. C'est genre, ouais, et c'est quoi les conditions? Bah, on va te juger. Ah, ouais. Mmh. Vas-y, je viens, merde.
C'est faire la comparaison de qu'est-ce que ça m'apporte,
ouais,
qu'est-ce
ratio,
que ça me coûte.
Ouais.
Le ratio de, c'est, allez, je vais me faire juger, il y a un jury, je vais pas aimer ce truc de compétition avec les autres.
Ouais.
Mais en même temps, je joue dans une belle salle, beaucoup de gens qui peuvent me voir.
Ouais.
Je peux faire des blagues devant un autre public.
Ouais.
Allez.
Ouais, c'est exactement ça.
Ok, je comprends.
Toi, t'en as déjà fait ?
J'en ai fait plusieurs.
Ouais.
Mais je suis quelqu'un de très compétitif.
Ah ouais ?
Ouais, moi, une fois que je suis en compétition, je suis très mauvais perdant, très compétitif.
Comment tu le sens quand t'es sur un plateau ? Est-ce que t'as ce truc-là de...
Non, en plateau, pas trop. Ça dépend. Ça dépend de l'ambiance du plateau.
D'accord.
Il y a des fois des ambiances de... Il faut scorer. T'as l'impression qu'il faut que tu... Il faut que tu scores, ouais, c'est ça.
Ouais.
Genre, j'avais un peu cette impression-là quand j'allais jouer au bordel. J'avais beaucoup plus de pression quand j'allais jouer au bordel que quand j'allais jouer au terminal. Que, je trouve que des fois, c'est tout aussi cool. J'adore les deux lieux.
Ouais.
Mais je trouve qu'au bordel, il y a un peu plus une pression de...
À l'open mic.
Ouais.
Ah ouais.
Quand tu vas jouer au bordel, il y a un truc de... vas-y, montre-nous un peu plus. Un peu plus qu'au terminal où c'est plus, un peu plus chill. Après, c'est peut-être juste moi, ma façon de voir le bordel.
Ouais.
Déjà, je suis arrivé au bordel, j'étais là, oh, tiens, je suis au bordel.
C'est ça. Tu savais que ça existait. Enfin, t'avais déjà une forte image dans la tête du bordel avant de le voir.
Moi, dans mes objectifs, j'ai écrit des objectifs de vie. Il y avait jouer au bordel.
Ah ouais.
Moi, j'ai barré des objectifs de vie.
Ah ouais, t'as crossé des trucs de la bucket list.
Ouais.
Ok. Il y avait quoi d'autre
que j'ai barré?
Ouais.
Il y avait vivre à Montréal.
Ok.
Dans ceux qui s'est pas encore fait, je dois participer à Sous-écoute.
Ok. Ça se fait, hein?
Ouais, ça se fait. Il y a moyen.
Ouais, ouais.
Demain, j'enregistre un podcast live avec PE, qui est un humoriste belge qui cartonne, qui a fait le sous-écoute quand Mike Ward est venu en Belgique.
Ok.
Et donc, je suis excessivement jaloux,
ouais.
Mais trop content pour lui. Ouais. En plus, c'est quelqu'un qui est fan du podcast de base, qui était invité. Donc, je suis trop content pour lui. Mais tu vois, c'est aller au bordel, c'était dans les objectifs de vie. Aller voir un festival d'humour au Québec, ouais. Ça l'était. Et je suis participé à un...
T'as fait quoi
le mini-fest.
Okay.
J'ai fait deux scènes au mini-fest.
Ouais. Bah,
j'ai fait le podcast en live.
Ouais.
Et j'ai fait Arrête ton cinéma, qu'on a fait ensemble.
Ouais.
Le plateau de Balthazar,
ouais.
Sur le cinéma.
Ouais.
Donc, je suis trop content. Moi, le Québec, c'était un rêve depuis...
Ah, t'as vécu un rêve, quoi.
Ouais. Ah, mais moi, ça fait... depuis que j'ai 15 ans, j'en rêvais tout le temps, j'en parlais tout le temps.
Ok, l'humour, ça... Là, t'as quel âge?
Là, j'ai 30.
Ok, donc ça faisait 15 ans quand même que t'avais l'humour qui te trottait dans la tête.
Bah, c'est pour ça que, en fait, le visa... que j'ai pris pour aller au Québec, c'était la dernière année que je pouvais y aller. Le PVT, c'est jusqu'à 30 ans en Belgique.
Okay.
Et donc, c'est vraiment ma copine qui m'a dit, vas-y.
Okay. Ouais.
Ça va faire bientôt 10 ans qu'on est ensemble. Donc, ça me dit, ça va faire 10 ans que tu m'en parles, que tous les ans, tu regrettes de pas y être allé.
Je veux que t'arrêtes de me casser les couilles avec ça.
C'est un peu ça. Il y en a qui disent, c'est une belle preuve d'amour. C'est plus une preuve de je la saoulais.
Ouais, ouais.
Mais en vrai, merci de m'avoir encouragé à le faire, quoi.
Ouais, c'est trop bien.
À fond. Et donc voilà, c'est ça. Les concours, j'en ai fait quelques-uns, mais j'aime pas trop ce truc parce que, pendant que c'est le sketch et tout, que tout le monde passe, je suis content avec tout le monde, j'ai envie que tout se passe bien pour tout le monde, mais au moment où ils vont annoncer les résultats, j'aime pas ce côté sombre de moi qui veut passer devant les autres.
Ouais.
Et qui, si je suis pas pris, je suis un peu vénère.
Ouais.
Et je commence à juger, à me comparer aux autres, alors que c'est pas l'idée.
Ouais, c'est pas l'idée de l'humour. Et en vrai, ce genre de sentiment, bah après, c'est humain, c'est...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
La jalousie, l'envie et tout, c'est des trucs qu'on vit tous, mais je pense que c'est pas des bons moteurs créatifs.
Ouais. Mais tu vois, sur un plateau, si ça a ri pour moi et que ça a ri pour les autres, je suis trop content.
Okay.
J'ai eu plus de rire, je vais même pas spécialement comparer tant que ça.
Ouais.
Après, tu compares toujours un peu naturellement, mais si tout le monde a bien passé, le public a passé une bonne soirée et que ça a ri du début à la fin, c'est cool.
Ouais.
Ça va me faire chier si je suis le seul qui marche pas.
Ouais.
Là, mon ego prend un coup de...
Ça arrive souvent.
C'est déjà arrivé.
Ouais.
Pas souvent, okay. C'est déjà arrivé. Ouais. Mais voilà, en concours, j'aime pas ce moment où on va annoncer les résultats et où il y a mon pote qui est à côté que je trouve qu'il est super bon,
ouais.
Que j'espère qu'il soit pas pris parce que moi, je vais être pris, tu vois.
Ouais, c'est comme la scène avec Diggory et Harry Potter dans La Coupe de Feu,
mm-hmm.
Où ils se battent pour La Coupe de Feu et qu'au final, ils disent « Ensemble !» Enfin bref. Ouais.
Et après, Diggory meurt. Oh, spoil. Mais je vois très bien la scène.
Ouais.
On a fait il y a pas longtemps, ils organisent une soirée à thème, une fois par mois au réservoir.
Ouais.
C'est une soirée sur le thème d'Harry Potter, donc on avait fait des sketchs Harry Potter, on avait fait sur Seigneur des Anneaux et tout, et moi je suis un gros fan de Harry Potter, donc j'étais trop content de faire des blagues là-dessus. Voilà.
Tu l'as filmé?
Ah non, j'ai pas filmé. Ouais. En fait, c'est les soirées à thème, comme c'est la première fois que tu testes les trucs devant public. Je n'ai aucune confiance en ce que je propose le jour même.
Ah, mais un truc comme Harry Potter, c'est genre, tu le proposes le jour même, mais c'est tellement une icône culturelle que c'est des blagues qui mourront jamais, quoi.
Ouais. Mais en fait, j'ai tellement pas confiance que comme je l'ai écrit, je l'ai jamais testé et que ma copine n'aime pas spécialement Harry Potter, donc je peux pas lui dire les blagues et ouais. avoir un retour. J'ai toujours l'impression que je vais me planter. J'ai fait 3 soirées à thème, j'ai fait Seigneur des Anneaux, Star Wars et Harry Potter. Les 3, j'étais persuadé que j'allais me taper un bide complet. J'avais limite envie d'annuler le jour, mais je laisse pas les gens en plan, donc ouais. je vais faire le show.
Une question par rapport à ça.
Ouais.
T'arrives à bien vendre quelque chose sur lequel tu penses que tu vas te planter?
Mais en fait, c'est bizarre, c'est que c'est pas vraiment que je pense que je vais me planter, j'ai juste pas confiance dans le
D'accord.
truc. J'ai besoin d'être rassuré, en fait.
Ok.
Mais en soi, je pense quand même que j'ai écrit le mieux que ce que je pouvais faire. Tu vois ce que je veux
ouais.
dire? Et donc, quand j'arrive, j'ai pas confiance. Donc, en fait, je me dis même pas, je vais la filmer. Peut-être que je la mets sur les réseaux sociaux. Je me dis juste, vends-les le mieux que tu peux pour que ça se passe bien.
Ouais. Au moins, t'as fait ce que... Enfin, ouais.
Voilà. Qu'il y ait pas, que ça soit pas malaisant, que le public rie, que ça passe une bonne soirée, que les gens se disent, ah, on peut le recontacter, Régis, c'est pas malaisant.
Ouais.
Mais en fait, le Seigneur des Anneaux, c'est super bien passé. Star Wars, c'était une de mes meilleures scènes. Harry Potter, ça va, ça, c'était bien.
Il y avait du monde à chaque fois ?
C'était rempli à chaque fois.
Oui.
Et
le réservoir, c'est un endroit dont je suis très jaloux.
Ah ouais, ouais, ça,
ah ouais c'était trop bien.
J'anime là tous les mardis, je suis trop content.
Ouais, ouais.
Y a moins de monde, parce que c'est soirée test, c'est différent, mais c'est trop cool.
Ouais.
Et en fait, la soirée Star Wars, je me suis dit, mais j'aurais tellement dû la filmer. C'est une de mes meilleures scènes tout court à vie. Mais en arrivant, je me suis dit, si j'ai des rires, je suis content.
Ouais.
Et en fait, c'est une des soirées où j'ai le plus de rires.
Ok. Bah, okay. Juste... un des rares conseils que je peux donner et que je n'applique souvent pas moi-même, c'est faut tout filmer.
Faut tout filmer.
Tout ce que tu peux, on sait jamais.
Je donne le même conseil.
Ouais.
Et dans les faits, à Montréal, j'ai pas mal filmé.
Ouais.
Mais je crois que j'avais un côté, je voulais documenter.
Ouais.
Je voulais regarder des souvenirs.
Tu vas faire un petit docu?
Non, mais je voulais avoir moi des traces. J'ai fait des vidéos, j'ai fait des reels, des trucs ainsi. Mais c'est plus pour moi aussi. Pour me rappeler. Mais moi, c'était un rêve de 15 ans, donc d'office, je voulais qu'il y ait des traces, tu vois.
Ouais.
Mais ici, depuis que je rentre en Belgique, je crois que j'ai filmé une fois.
Ouais.
Ça va faire 4 mois.
Ah ouais. Faut s'y remettre, hein.
Ouais, je sais. Moi, je conseillerais à quelqu'un qui veut faire du stand-up de filmer tout ce qu'il fait aussi.
Bah ouais. T'en auras besoin pour les archives de Régis Canon au Stade de France. Où est-ce qu'il a commencé?
Ça marche.
C'est quoi la plus grosse salle ici?
La plus grosse salle, je pense que c'est Forêt Nationale en termes de capacité. Il y a Palais 12, il y a aussi.
C'est combien, Forêt?
Oh, je ne sais pas te dire.
Okay.
Je ne sais pas te dire le nombre de places. Moi, je trouve que la salle la plus cool à faire en stand-up, c'est Cirque Royal.
Okay.
Parce que c'est en demi-cercle.
Ouais.
Et c'est, je pense que c'est 2000 ou 3000 places. Et c'est, je trouve juste que la salle est nickel pour du stand-up. C'est la grandeur, pour moi, qui est le mieux.
Mm-hmm.
Genre, si, moi, la salle que je veux faire en Belgique, c'est Cirque Royal.
Ok. Il y a des choses qui s'y organisent souvent?
Ouais, il y a pas mal de shows. Moi, j'ai été voir Romain Fraissinet là-bas, j'ai été voir Jérôme Niel là-bas. Il y a PE qui l'a rempli le mois dernier. Ouais, il y a vraiment beaucoup de shows d'humour là-bas. Mmh. Moi, c'est la salle qui m'attire le plus en Belgique et je trouve que l'expérience publique est la plus cool
okay.
en Belgique, je trouve. Parce que moi, je suis pas très fan dans les très très grandes salles, genre Zénith.
Ouais, je l'ai jamais fait, donc j'en sais rien. Mais. En vrai, je pense que les plus grosses salles que j'ai fait, j'ai dû faire 800, je pense.
Mm-hmm.
Et j'ai trouvé que c'était parfait. Genre.
Okay, ouais.
La manière dont les rires se propagent, ils reviennent vers toi. Après, c'était une salle en particulier. Je ne sais pas si toutes les 800 places sont pareilles, mais j'avais adoré l'expérience.
Okay, ouais. Mais à Montréal, par exemple, j'adore c'est le Jésus.
Ouais.
Je trouve qu'il est nickel.
C'est là où j'ai vu Adib, moi.
Ah bah ouais, moi, c'est là que je l'ai vu aussi.
Okay.
Mais je trouve que c'est parfait.
Je l'ai fait 2 fois, le Jésus.
Ouais.
Et c'est 400. Ben, je crois que c'est 400. Et j'avais eu un peu le même feeling que pour une 800. Donc je me dis que.
Mais c'est le côté demi-cercle,
ouais.
le côté estrade.
Ouais, et la scène n'est pas très haute.
Ouais.
T'es presque au même niveau que le premier rang.
Mm-hmm.
Ouais, c'est super agréable.
Ouais, j'aimais bien ça.
Mm-hmm.
Mais d'ailleurs, toi,
ouais.
comment tu es arrivé au Canada en fait? Comment ça s'est fait le fait que tu te retrouves à faire l'École nationale de l'humour? Comment
ouais.
t'en avais entendu parler? Comment t'es passé de je fais quelques scènes à Paris
ouais.
à j'arrive à Montréal?
Ben, de quand j'ai commencé le stand-up, je dirais août 2018, jusqu'à la pandémie, j'étais vraiment en mode vision tunnel. Je faisais du stand-up je savais pas trop ce que je faisais, mais je le faisais. Je jouais partout, on me disait d'aller jouer, je testais un peu tout, mais je savais pas trop ce que je faisais. Puis la pandémie, elle a frappé, et là, à ce moment-là, je sors un peu la tête du guidon, et je suis en mode, en vrai, je sais pas trop ce que je fais. J'aime bien les trucs que j'écris, mais je sais pas travailler. Puis j'ai l'impression qu'il manque des trucs, tu sais, en termes de tenue de scène, enfin, de comment tu tiens une scène, pas comment je me sape sur scène, mais de, tu sais, comment tu projettes ta voix, comment tu bouges, comment tu t'improvises, comment t'interprètes. Enfin, je cherchais à muscler mon jeu. Et à ce moment-là, je crois que c'est ma cousine qui m'a... Enfin, pendant la période où je faisais du stand-up avant ça, elle m'envoyait plein de liens parce qu'elle est très cérébrale et quand elle entend parler d'un truc, elle va se renseigner partout. Pas moi. Moi, c'est genre, je me lance et on verra. Et elle m'envoyait plein de liens et à un moment, je tombe sur un des liens. C'est une vidéo de Roman Frécinet, justement, qui parle de l'école. Et il parle, en fait, de... À ce moment-là, je l'avais jamais vu, je l'avais jamais croisé, je savais pas qui c'était. Et en fait, il parle de tous les trucs dont j'ai besoin. Genre, ouais, tu vois, il y a des cours de chant. Ah, oh, lourd, truc de voix. Il y a des cours d'interprétation. Ah, oh, mortel, je pourrais plus jouer. Truc d'impro. Ah, oh, truc. Donc là, je fais les concours et je suis pris et bah, j'y vais.
Est-ce que t'as fait les auditions à distance?
Ouais.
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 En visio et tout?
C'était compliqué.
Et qu'est-ce que t'as fait comme sketch pour l'audition?
Non, j'ai envoyé une vidéo.
T'as envoyé une vidéo?
C'était une vidéo d'un concours, justement.
Que t'avais déjà filmé devant public?
Ouais.
Ok, ouais.
C'était justement la scène de 800 personnes. C'était vraiment une belle scène, une belle captation. Donc j'ai envoyé ça. J'ai été pris au... Ça, c'était la pré-audition. Ensuite, tu fais les auditions. C'est une journée où...
Exercice d'écriture, exercice d'impro.
Ouais. Écriture, impro, interprétation. Donc j'ai été pris là-dessus. Et j'ai dû attendre le visa, parce qu'il y avait des problèmes de... lié au Covid, j'ai dû attendre le visa quelques mois et je suis parti fin 2020.
Ok, fin 2020.
Ouais.
Mais du coup, t'es sélectionné pour l'École nationale de l'humour.
Ouais.
Mais donc, en termes de cours, c'était en période de Covid.
Ouais.
Donc, comment ça s'est passé?
Sur Zoom.
Sur Zoom. Mais t'étais à Montréal.
Quand je suis arrivé à Montréal, il y avait certains cours. Par exemple, tu sais, on avait des cours un peu plus théoriques, genre histoire de l'humour, humour et société, où c'était des trucs qui se passaient sur Zoom. Et ensuite, on avait d'autres trucs comme les cours d'impro, les trucs d'interprétation. En fait, c'était modulable, ça dépendait des politiques du moment. En ce moment, on va reconfiner, puis on va déconfiner. Ça changeait.
Ok, ouais. Mais comment t'as vécu ton expérience à l'École nationale de l'humour?
C'était dur.
Ouais.
Ouais, ouais, ouais. Oh ouais, c'était dur. C'était trop bien. Franchement, c'était cool. Justement, parce que j'ai été confronté à plein d'univers différents, comme on parlait au début, tu sais, la richesse de la culture québécoise qui est différente de la nôtre. Donc ça, c'était trop bien, tu sais, d'évoluer avec des gens qui ont fait de l'impro pendant 15 ans, d'autres qui avaient jamais fait d'humour, mais qui avaient leurs références que moi, je connaissais pas, tu sais, qui me parlaient de trucs purement québécois ou même qui m'apprenaient d'autres choses, plein de trucs comme ça. Je trouve que les profs, ils étaient super qualifiés, chacun dans leur domaine, c'était trop stylé. Qu'est-ce que j'ai kiffé d'autre aussi? C'était dur parce que je pense que par rapport au fait que j'avais fait un peu de stand-up avant, j'étais dans les plus expérimentés de la scène du dehors. Tu sais, de l'école des bars, entre guillemets.
Ouais.
Mais devant, par exemple, les vendredis, tu sais comment ça fonctionne.
Ouais, donc, même pour expliquer pour les auditeurs, vas-y, je t'en prie.
C'est que t'arrives chaque lundi avec une idée de 5 minutes que tu vas travailler toute la semaine et que tu vas performer devant la classe le vendredi soir. Et pour moi, les vendredis, c'était dur. C'était vraiment dur parce que c'est encore une difficulté que j'ai aujourd'hui. On dirait que j'ai plus de mal à expliquer mes idées à des humoristes qu'à les performer devant des non-humoristes. Donc souvent, genre même quand j'ai envie d'écrire avec quelqu'un, j'ai envie de le faire d'abord sur scène, puis de le montrer à l'humoriste et qu'il me dise « Ah ouais, ça, tu pourrais rajouter ça », plutôt que d'aller le voir avant. Tu vois ce que je veux dire?
Je comprends.
Donc ouais, moi, les vendredis, c'était dur.
Ok, ouais. Mais ça se passait bien? Parce que c'était dur. C'est dur le côté confrontant de proposer ses idées devant les autres de la classe et tout à chaque semaine. Donc je suppose qu'il y a des fois c'est mieux, des fois c'est moins bien. Mais est-ce que de manière générale, ça se passait bien? Tu te disais « Waouh, j'ai quelque chose, quoi ».
Ah, je me disais toujours j'ai quelque chose, mais c'était quand même crispant et non, ça se passait pas forcément bien. Il y avait des moments où j'étais genre ah, j'aurais pu faire mieux ou disons que j'étais pas le meilleur des interprètes dans ce contexte-là.
Et est-ce que toi tu recommanderais l'école?
Pour moi c'était une top expérience, j'ai adoré et je me dis heureusement que je l'ai faite. Mais ça dépend ce dont t'as besoin. Tu sais, comme toujours quoi, enfin genre. Je vais pas te recommander de l'insuline si t'as pas de diabète. Enfin, tu sais, ça dépend de ce que tu recherches, mais moi, ça centralisait tout ce dont je pensais avoir besoin. Et encore aujourd'hui, des choses que j'ai appris à l'école théoriquement, je les recomprends sur scène. Et je pense que ça m'a fait gagner du temps.
Ok. Qu'est-ce que tu penses que ça t'a vraiment apporté Vraiment, c'est le côté structure.
Ouais. Le côté, je sais vers quoi je travaille. Je suis pas genre juste à tâtonner, genre, oh, j'ai trouvé un truc marrant. Non, c'est genre, ok, j'ai une idée. Comment je l'amène de cette idée à un fou rire sur scène? Okay. Il y a ça. Et puis, aussi, en vrai, culturellement, c'était trop, enfin, juste, ça m'a ouvert l'esprit, quoi. Mm-hmm. C'est une autre culture. C'est une autre forme de travail. C'est le fait d'habiter sur un autre continent. C'est toujours enrichissant. Donc, trop bien.
À la fin de la formation, vous êtes parti en tournée, ouais, à travers le Québec avec ta cohorte.
Ouais.
C'est, la tournée a eu lieu normal, sans conditions.
Ouais, on a
COVID
fait nos 33
dates. 33
dates
à travers le Québec. Ouais. Comment c'était? Quel souvenir tu gardes de ça?
Ah ouais, c'est trop marrant. J'ai trop rigolé. Bah, en vrai, ça s'est vraiment bien passé pour moi sur beaucoup des shows. Donc ça, je touche du bois. Enfin, on touche du bois après ou avant?
Je crois que c'est plus pour quelque chose qui va se passer après, ouais, mais.
Bah, je sais pas.
Dans, bref, le doute.
Ouais. Mais ouais, non, c'était vraiment une top expérience. C'était fatigant, c'était challengeant parfois aussi parce que bah, être dans un si petit cocon avec autant de gens pendant autant de temps, au bout d'un moment, ça, bah, tu sais, c'est fatigant, quoi. Ça peut créer des mini-tensions, il n'y a pas eu d'explosion et tout ça, mais c'est juste au bout d'un moment, c'est genre, putain, j'ai l'impression qu'ils en ont marre de voir ma gueule et moi aussi j'en ai marre de voir ça. Enfin, tu sais, c'est le jeu, quoi, mais ouais. Non, c'était trop bien. Okay. C'est vraiment un truc que c'est possible que je le revive jamais, on ne sait jamais, mais je suis trop heureux d'avoir eu la chance d'avoir cette expérience.
Ok, ouais. Et est-ce que à un moment donné tu te disais je vais faire ma carrière au Québec, ou tu savais, tu avais en tête déjà que tu allais rentrer en Europe?
Ouais, non, il y a toujours, j'ai toujours eu, je suis parti de France avec l'idée que j'allais revenir.
Ok.
Quand j'étais au Québec, je me suis dit putain, en vrai c'est vraiment vraiment pas mal, mais je pouvais pas ne plus penser à la France. Donc okay, ouais. Non, à aucun moment j'ai mis une croix sur la France. Et après aujourd'hui je mets pas de croix sur le Québec. C'est genre on verra.
Et pendant que tu étais à l'école, est-ce que tu as continué à faire des shows dans les, ouais, bars et tout ça?
Ouais, ouais, ouais. Dès que c'était possible, j'avais la mentalité parisienne du couteau entre les dents. En fait, j'ai moins ce truc de faire des recherches profondes sur un truc que je vais faire. Même quand j'ai su que j'allais au Québec, je me suis dit, je vais pas trop regarder d'humoriste, je veux y aller, je vais découvrir. Donc le bordel, je connaissais pas trop, moi.
Okay, ouais.
Donc dès qu'on m'a, ben, je savais que ça existait, mais je me suis pas trop posé de questions. Et vu qu'en France, je jouais beaucoup dans un comedy club, le Paname Art Café, j'avais pas une image mystique des comedy clubs. C'était genre juste, oh lourd, un comedy club, je vais y aller. Donc dès que j'ai su que c'était possible, j'ai envoyé un message, j'ai fait l'open mic, je l'ai fait relativement tôt, relativement souvent. Et c'est un des top endroits où j'ai joué dans ma vie. Mais j'ai eu la chance de ne pas m'être fait une image de ce truc-là avant pour ne pas... J'étais pas du tout intimidé, quoi. Okay, c'était, ouais, juste, oh, comedy club mortel. Tu sais, j'y allais comme un gosse. Et c'était, encore une fois, une expérience trop bien.
C'est vrai que moi, pour le coup, le bordel...
Ouais.
Moi, j'avais vu en 2015, à Tout le monde en parle... Mike Ward, Charles Deschamps qui était venu en parler sur le plateau,
ouais,
de on va ouvrir un comedy club, et moi je rêvais de ça. Ouais. Déjà les 6 humoristes qu'ils ont ouverts, je me suis dit waouh, rien que déjà tu peux les croiser en vrai dans un endroit. Ils parlaient du bordel. Puis après il y a plein d'humoristes qui sont allés à Montréal, genre Farid, tu lui demandes le meilleur endroit pour jouer en stand-up, il a son comedy club et il dit le bordel.
Ah ouais, encore aujourd'hui?
Bah, en tout cas, il l'a dit dans des podcasts. Maintenant, je sais pas. Peut-être qu'il, ouais, va peut-être faire plus la promotion de, ouais, Madame Sarfati, qui, ouais, est vraiment un lieu cool aussi.
Ouais.
Mais Charles Soignon l'avait dit aussi. Donc moi, il y avait tout un truc autour du bordel. Mais rien que ce soit l'endroit où il y a les enregistrements de sous-écoute et tout ça.
C'est
moi,
des mecs du stand-up francophone.
C'est ça. Mais moi, le jour où j'ai fait le premier open mic au bordel, et ça s'est passé correct parce que quand j'étais en train de jouer, j'étais en train de me dire
je suis au bordel.
Je suis au bordel. Ne pleure pas, Régis, continue de faire ton score. Ouais. Tu vois, un truc, ouais, de. T'y es, mm-hmm, tu l'as fait. Mais j'étais en train de parler.
Ouais.
Et mon cerveau était en mode, t'es au bordel. T'es en train de faire des blagues au bordel. Eh, blague au bordel, blague au bordel.
Ouais,
alors,
ouais,
que t'es censé être occupé, ouais, à ce que t'es en train de faire et à connecter avec le public. Ouais.
T'imagines, ça s'était inversé, genre c'est ton cerveau.
que je l'ai dit, ça, ouais. Et j'ai fait, oui, en effet.
Et ça rit plus que tes blagues.
D'ailleurs, il te reste 4 minutes. Allez.
Bordel, 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 bordel.
C'est ça. Mais donc, ouais, c'est peut-être mieux en fait de pas avoir ce truc.
Bah ouais, et puis même parfois rencontrer certains humoristes chevronnés, connus, vraiment célèbres là-bas. Moi, j'avais. Bah, tu sais, je suis toujours content de rencontrer des gens, mais j'avais pas le truc du genre, oh putain, c'est lui. Je suis genre, hey, salut. Et en plus, la plupart, ils sont super sympas,
ah, oui, oui,
et abordables et tout. Donc, ouais, je pense que ça m'a aidé de pas tant en savoir que ça. Et du coup, j'ai découvert, par exemple, j'avais déjà entendu dans un pote, moi, un humoriste qui m'a vraiment frappé, c'est Simon Gouache. Mm-hmm. Et j'avais entendu dans plusieurs podcasts qu'il était trop fort et tout, mais je voulais pas regarder ses vidéos.
Ok.
Et j'avais juste ce nom en tête. Et je suis allé le voir et il m'a foudroyé. C'était trop bien. Pareil pour Simon Leblanc. Mm-hmm. Adib aussi. Et ouais, c'est ça. Je préfère découvrir sur le tas, quoi.
Ok, ouais.
Ouais.
Ça marche. Bah, moi, pour le coup, c'est que des noms que je connaissais depuis longtemps parce que moi, je regardais tout ce qu'ils postaient, tous les passages juste pour rire, les sketchs qui sont mis sur Internet, ouais. Et tout ce qui est possible et imaginable de consommer, ouais, en stand-up.
Bah, moi, tous ces trucs-là, je les ai vus après et je me disais, putain, en vrai, en vidéo, c'est moins bien, quoi.
Ah oui,
c'est
oui. Fou. Ah oui, le stand-up, c'est...
Ouais, ouais, mais c'est genre, je me dis, pour les gens qui ne les ont vus qu'en vidéo, c'est genre le jour où vous allez les voir en vrai.
Ouais.
Vous avez capoté, là.
Vraiment ça. Et c'est où que toi, tu aimais jouer quand t'étais à Montréal?
Ça se tape entre le Bordel, le Terminal et l'Abreuvoir. Mm-hmm. Ah ouais, non, après, c'est trois salles, trois ambiances différentes, mais au Bordel, ce que je kiffe, c'est que c'est exactement ce que je me dis. Ah putain, un comedy club, ça devrait être ça, quoi.
Ouais.
C'est genre...
C'est nickel.
Les conditions sont parfaites, l'acoustique... Le public, il est éduqué, ils savent exactement ce qui va se passer. Le Terminal, je trouve qu'il y a... moi, j'ai une attache particulière aussi parce que je connais bien les gérants et tout de l'endroit, mais je me sentais vraiment, vraiment, vraiment à la maison. Ça, c'était cool. Et l'Abreuvoir, je trouvais qu'il y avait un truc un peu punk que j'aime bien. Je trouve que l'énergie, elle me collait un peu. J'aimais bien les gars, par exemple, le Mercredi de l'humour. Tu sais, Charles Brunet qui tient ce truc-là, c'est un mec qui me mettait grave à l'aise. Dont j'adore le stand-up. Il y avait vraiment un truc dont je me sentais proche de la, disons, de la direction artistique de l'Abreu, et j'adorais ça.
Ok. Après l'école, t'as fait un 3x20 avec Dom Babin et Francis Legendre.
Ouais.
T'as fait aussi une petite tournée, ouais, avec Francis qui s'appelle, ouais, En équipe.
Ouais.
Comment c'était?
Finalement, ça n'a été qu'un 30-30 avec, okay, Francis. On a fait un 30-30 au Terminal, c'était mortel. Et c'était marrant parce que il y a la moitié de la salle qui est venue pour lui, l'autre moitié qui est venue pour moi, tu sais, Québec-France. Mm-hmm. Et il y avait vraiment une délimitation dans la salle. C'est genre, à gauche, il y avait les Québécois, à droite, il y avait les Français. Ça faisait vraiment apartheid. Okay. Tu sentais que pour mes blagues, ça rigolait plus là. Mais c'était une bonne expérience, c'était trop bien. Ensuite, la tournée avec Dom et Francis, on a fait 4 dates. Les 4 sold out.
Ok, trop bien.
Ouais, je me rappelle. Bah, encore une fois, on avait ce truc de... Vas-y, on sort de l'école, on fait une tournée. On va délirer, qu'on va raconter des blagues, ça va être bien. Mais il y a des gens qui sont venus nous voir, qui nous disaient, ouais, vous vous rendez pas compte, ça a jamais été fait. Des gens qui sortent de l'école, qui lancent une tournée. Tu sais, on n'était pas en mode genre on va le faire parce que ça a jamais été fait. Juste, on s'est pas posé la question. Mm-hmm. Genre en vrai, si tu sais pas que tu peux pas le faire, souvent c'est une bonne raison de le faire. Donc c'était trop bien. Mais je voulais revenir sur la question d'avant. Toi, c'est quoi tes endroits préférés au Québec pour jouer?
Ah. Il y a le Bordel,
ouais,
mais j'arrive pas à... Je m'y sens pas relax.
Ah ouais.
Parce que j'ai trop, mystifié le truc.
Tu y as joué combien de fois?
Attends, j'ai fait 2 fois le gong show, ouais, et j'ai dû faire 3 ou 4 fois l'open mic.
Ok.
Je pense. Donc j'ai pas joué tant que ça.
Ok.
J'ai joué plus à... Mais mon endroit préféré, c'est le Terminal.
Ok.
Parce que je trouve que les gens sont trop gentils,
ouais,
l'accueil, l'endroit, le lieu, je le trouve beau et tout.
Ouais.
Et ça, les meilleures scènes que j'ai eues à Montréal en termes de réaction publique, c'était là-bas.
Ok.
Et j'ai vraiment des très bons souvenirs. Genre, tu me dis Terminal, j'ai des souvenirs de putain, ça marche bien.
Ouais.
Tu vois, le public, grosse réaction. Après, est-ce que c'était peut-être plus facile parce qu'il y avait un peu un public européen, que du coup,
ouais,
il réagissait plus facilement, ou je sais pas, mais ouais, j'adorais cet endroit, je trouvais qu'il était nickel. Après, j'ai un rapport particulier avec le bistrot de Paris, parce,
ouais,
que c'est moi qui animais, ouais, j'ai animé plusieurs, un bon paquet de fois là-bas. Donc, j'ai commencé à m'y sentir vraiment bien, à prendre mes aises. Le Jockey aussi, parce qu'on avait,
ah ouais, c'est clair, ouais.
On avait la soirée du Glou.
Ouais.
Du Glou Comedy Show une fois par mois, et au fur et à mesure, c'était trop bien. Donc, ça m'a vraiment resté, mais je dirais vraiment le Terminal. Mais en termes de... Le Bordel est juste fabuleux et parfait pour du stand-up, mais je crois que c'est juste moi qui le mystifie trop.
T'arrives pas encore à péter la bulle?
Pas encore.
Ok, faut que tu retournes.
J'y retourne. J'adorerais pouvoir revenir à Montréal avec un spectacle et faire « j'ai continué à progresser, je veux revoir les gens, je veux reprofiter de cette ambiance, mais avec quelque chose de... j'ai continué à évoluer. »
Ouais, c'est bien, donc t'es rentré ici avec un but.
Ouais.
Ouais.
Mais en fait, l'année à Montréal m'a fait me dire... parce que j'avais pris un an de pause carrière pour pouvoir aller à Montréal, pour pouvoir,
ouais,
faire cette expérience d'un an que,
ouais,
je reportais depuis 15 ans.
Ouais.
Et en fait, le fait de l'avoir fait m'a fait me dire, mais c'est ça que tu veux.
Ok. Et ta copine, elle est à l'aise avec ça?
Ouais, ouais, ouais.
Okay.
Elle m'a dit à fond,
let's go.
Vas-y, vas-y.
Ah, vas-y ou allons-y?
Elle m'a dit vas-y à Montréal
pour l'année.
Pour l'année. Ouais. Et quand je suis rentré, je lui ai dit on en a discuté et tout. On avait déjà discuté pendant que j'étais à Montréal aussi, mais c'était vraiment mais je veux pas refaire l'enseignement, reprendre mes cours du soir que j'avais parce que du coup je faisais beaucoup moins stand-up parce que je travaillais le soir. Mmh. Et je veux me mettre en indépendant, faire du stand-up, aller jouer tous les jours de la semaine à un maximum. Et elle me dit ouais, mais je voudrais qu'on passe du temps ensemble. Qu'on a dit. Au minimum, on a dit le strict minimum, c'est un soir par semaine où on est à deux d'office. S'il n'y en a pas un sur la semaine, ça ne va pas aller. Mm-hmm. Mais tu vois, par exemple, aujourd'hui, c'était le soir qu'on avait ensemble pour le soir. Et on me propose une première partie aux Kings. Et du coup, là, je vais en discuter avec elle. C'est une première partie. Ça me nourrit ce que j'aime bien. Je vais voir son spectacle. Ouais. Demain, je suis disponible. Donc, on aura quand même une soirée demain. Et au final, elle me dit, mais j'ai pas envie de t'embêter à pas le faire. Elle voit que c'est important. Et je dis, mais je veux pas que tu penses que tu passes après l'humour. C'est juste.
Le cas. Non, je rigole.
Non, c'est pas le cas, non, mais... Je rigole. Mais c'est important aussi. Elle comprend ça.
Puis, et ça se module. Ça se module. C'est genre, là, aujourd'hui, tu vas pas être disponible, mais une autre fois, vous passerez 4 jours ensemble.
Oui, c'est ça. Et c'est aussi parce que pour le moment, je joue beaucoup, beaucoup pour me faire montrer dans plein d'endroits, pour faire des plus petits plateaux qui peuvent, des fois, donner accès à d'autres plateaux juste pour qu'on te voit.
Ouais.
Mais tu sais que ce plateau-là, il va te faire gagner 5 euros.
Ouais.
C'est pas celui qui va te faire payer tes factures, ouais. Tu vois. Mais il
faut. Là, t'investis sur toi-même.
J'investis pour que, par exemple, il y a des plateaux qui s'organisent en anglais le lundi.
Ouais.
C'est un open mic. Ouais. Mais à force de me voir, ils m'ont proposé un showcase qui est fait.
Ok.
Je fais, c'est trop bien.
Trop bien.
Parce qu'il faut montrer les trucs, tu vois. Ouais. C'est ce que je veux dire. Mais non, un soutien de ouf là-dedans, c'est trop cool.
Ouais.
J'ai vraiment trop de chance. Et pour Montréal, ouais, c'est ça. Vraiment le terminal. Je crois que c'est l'endroit qui me manque le plus à Montréal.
Mmh.
Ouais.
Ouais, c'est
moi je suis nostalgique pour le coup.
Ouais, je le vois. C'est cool, c'est que enfin je me dis que je vais y retourner.
Mm-hmm.
Donc dans ma tête, c'est comme si c'est bon, c'est là, mm-hmm. Pas de panique, tu vas y aller. J'étais plus anxieux de rentrer en France qu'aujourd'hui je suis de repartir à Montréal, même si j'ai dans l'idée d'y aller.
Okay, ouais.
Mais il y avait quand même des supers endroits. Il y a aussi j'ai fait une soirée d'un humoriste québécois qui s'appelle Stéphane Poirier,
mm-hmm.
à Richelieu. C'était trop bien, genre. Tu sais, il y a plein de petites soirées, je veux dire annexes, pas annexes, mais enfin, c'est pas des comedy clubs, mais c'est des soirées plus ponctuelles qui s'organisent, que j'ai adoré aussi. Et là, tout de suite, je les ai pas toutes en tête, mais ouais, il y a eu des moments hors du temps, c'était trop bien.
Moi, je repense à ça, il y a le Gong Show, qui est vraiment une ambiance super particulière, mais trop bien.
Ouais.
J'ai adoré ça, et c'est trop marrant parce qu'on en parle maintenant. Il y a des humoristes, j'ai joué hier à Charleroi, c'est un humoriste de Lille qui m'a fait. Mais je t'ai pas vu quelque part et je fais, c'est possible, je fais du stand-up, je joue souvent à Lille. Ah, je t'ai vu dans le Gong Show. Je fais, c'est trop marrant.
Yo, ça buzz de fou le Gong Show. Ouais.
Ouais. Ça, c'est office pour les humoristes, c'est trop bien, quoi. Moi, j'adore regarder même les passages nuls du Gong Show. Parce que des fois, je trouve que des gens ont des idées.
Donne des noms. Non,
je saurais pas. Tu vois, tu les vois un passage, tu fais, c'est vraiment nul.
Ouais.
Moi, j'aurais gongué plus vite.
Ouais.
Mais des fois, ils ont une idée incroyable dans un sketch nul.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, la pépite.
Il y a une pépite dedans et ils en font rien du tout. Et tu fais, mais juste pour l'idée, je suis trop content de l'avoir regardé, tu vois.
Ouais, c'est cool.
Et il y a le JT Comedy Club aussi, à Montréal.
Oui! Ah oui, je suis un ouf. Ouais, je l'ai oublié, la soirée de Cyril maintenant.
Mais non, c'est Cyril qui l'anime, ouais. Mais il y a aussi l'ESCO. L'ESCO est vraiment chouette.
Ouais.
L'ESCO, il a un petit côté stylé la lumière derrière et tout. J'aime bien.
Punk aussi, ouais.
Mais le JT, ouais, c'est dans un sous-sol d'une coloc de français ou dans leur cour arrière. Mais moi, c'est ma deuxième scène à Montréal. C'est dans la cour arrière à l'extérieur.
C'était encore Anthony Giuliani.
C'est Anthony Giuliani qui... Ah non, c'était Benjamin Zanata qui animait. Et c'est ma deuxième scène à Montréal. Et je crois que juste après moi, il y a Charles Deschamps qui passe. Donc moi, j'étais trop fan de Charles Deschamps.
Okay.
Moi, c'est le gars du bordel. C'est un des propriétaires. Donc déjà, je me dis, putain, Charles Deschamps, je le rencontre. Je lui demande de faire le podcast. C'est la première semaine que j'arrive. Je suis déjà comme un ouf.
Ah ouais.
Et je fais mon sketch.
T'as posé les pieds sur le sol québécois. C'était le début d'un rêve.
Ah ouais. De ouf. J'ai juste perdu ma valise le jour même que je suis arrivé.
il faut un prix à payer.
C'est ça. Et j'ai fait mon sketch et j'entends Charles Deschamps qui rit fort à une blague. Et je me dis,
c'est tout pour moi.
C'est trop bien. C'est parti.
Ouais.
Donc là, c'est des souvenirs.
Ah, c'est cool.
Mon petit moment nostalgie.
Mm. Et je t'ai pas demandé, ça fait combien de temps que tu fais du stand-up?
Ah, moi, c'est la question que j'aime pas. Parce que à répondre, c'est toujours bizarre. Moi, j'en fais depuis la première scène que j'ai fait.
Right.
Première scène, c'est 2013.
Mm-hmm.
Devant des potes. Après, la vraie scène devant public, machin, 2014. Mais en fait, je travaillais le soir. À partir de 2014, j'ai travaillé tous les soirs presque de la semaine, et donc j'avais très peu d'occasions de faire du stand-up. Au début, j'en avais un peu plus, mais il y avait très peu de stand-up. Donc, par exemple, le Kings que tu as fait, tu as joué 4 fois cette semaine-ci au Kings. Ouais. Bah, avant, tu avais un open mic par mois et le reste des plateaux, c'était des spectacles d'humoristes établis.
Ouais.
Donc, tu ne savais pas jouer. Donc, si je jouais une fois par mois, grand max au Kings. Donc, j'ai joué cette année-là, j'ai peut-être joué 4 fois sur l'année. L'année d'après, j'ai peut-être joué 6 fois. Donc, en termes. Ça fait longtemps que j'en fais, mais je n'en ai pas fait beaucoup de scènes. Et que j'en fais vraiment sérieusement. Je dirais l'année passée où j'étais à Montréal et que j'essayais de faire un maximum de scènes. Et cette année-ci où je suis...
Almost full-time.
Almost full-time. Mais j'essaie de jouer tous les jours, presque. Mais sur le mois de novembre, j'ai joué 20 fois.
D'accord.
Voilà, pour avoir une petite idée. Et l'année d'avant, j'avais libéré un soir de ma semaine où j'avais arrêté un cours. Du coup, je gagnais moins, mais du coup, je faisais plus de stand-up, donc j'étais content. Mais j'ai joué tous les jeudis de cette année-là. Mais c'était un soir semaine.
Tous les jeudis. Genre 52 jeudis.
Presque.
Ok.
Mais en tout cas, quasiment tous les jeudis. Okay. Hors vacances, hors truc où j'étais pas dispo. Mais tous les jeudis où j'étais en Belgique, j'ai fait du stand-up, quoi. Et c'était trop bien. Mais c'était pas assez, quoi.
Ouais.
Pour lancer quelque chose et pour qu'on te voie et qu'on se dise, ah ben, on va l'inviter à telle soirée, on va faire tel truc. Et pour découvrir de nouveaux trucs aussi, et écrire et être productif, quoi. Donc maintenant, sérieusement, 2 ans. Une première scène 2013.
Ok.
Pour une réponse.
Non, je comprends. C'est pas linéaire.
En 2023, t'as participé au Minifest. On s'y est croisé, donc la soirée Arrête ton cinéma.
Ouais.
De l'ami Balthazar. Coucou, ouais. Balthazar. T'as aussi beaucoup joué au ZooFest. T'as fait la soirée stand-up. T'as fait la première partie de Merwan. T'as fait la première partie de Nordin Ganzo.
Edgar Eve.
La première partie de Edgar Eve.
Les étoiles montantes.
Les étoiles montantes.
Et je crois que c'est tout.
Pas mal, hein?
Ouais. Ouais, c'était vraiment. Enfin, j'étais en train de. C'est vrai que j'ai beaucoup. C'était intense cette période-là. Mais ouais, c'était vraiment cool.
Ok. Parce que moi, quand j'ai vu que tu étais retour à Paris, j'ai fait ah ouais. Ah, c'est marrant. Moi, je te voyais continuer à Montréal, faire carrière là-bas et tout.
Pourquoi plus?
Parce que je te voyais partout tout le temps.
Ah. Donc,
pour moi, c'était établi. C'est le prochain qui va exploser à Montréal, tu vois.
Ah. Putain, je suis en train de me dire, putain.
Je suis en train de mettre un stress.
Parce que, il y avait aussi un, je sais pas si c'est un buzz, mais il y avait un truc un peu similaire quand je suis parti de France aussi.
Ok.
La première fois, je commençais à beaucoup jouer. Je me rappelle que la semaine ou les 2 semaines avant que je parte, je devais jouer à peu près 7 fois par jour.
Ok. Waouh.
Ouais, c'était intense.
Ouais.
Mais c'est ce que je voulais. Genre, en commençant cette année, je me disais, faut que je joue. Et quand je suis parti, on m'a dit, ah, putain, t'étais le prochain, t'aurais jamais dû partir, c'est fini, t'as niqué ta carrière. Et là, maintenant, je reviens. Si on me dit ça aussi pour le Québec, là, je vais partir de Belgique pour rentrer chez moi. On va me dire, t'aurais jamais dû partir.
Jamais tu partir de Belgique. T'as vu ce que t'as fait. Mais en vrai, c'est super cool ce que t'as su faire sur une semaine. Il y a plein de plateaux que j'ai pas encore su faire pour le moment.
C'est un peu le truc de, il est pas d'ici, on va le faire jouer.
Oui,
quoi.
C'est ça.
Ouais.
Et je suis en train de me dire que je suis trop bon pour booker les autres, tu vois. Mais en vrai, c'est beaucoup plus facile de demander du booking à quelqu'un d'autre, pour quelqu'un d'autre.
Tu fais, ouais?
Je trouve que c'est beaucoup plus facile de dire à quelqu'un, envoyer un message à quelqu'un et lui dire, est-ce que tu pourrais faire jouer un tel, il est vraiment trop fort, il a fait un tel. Envoyer le même message pour toi, c'est plus bizarre.
Ah ouais, mais t'as un podcast, t'as vécu à Montréal, t'as du temps de scène, enfin. Ouais. Tu dis quoi sur moi? Parce que moi, je vais prendre ton message et l'envoyer partout.
Moi, j'étais saucé à mort. Hein.
Ah, je sais pas me vendre. Je sais pas quoi dire.
Mais moi, j'ai dit, tu sais, École Nationale, c'est quelqu'un que j'ai vu sur tous les plateaux. Et chaque fois, il retourne les salles. Je le trouve super bon.
C'est gentil, putain.
Mais moi, je trouve que t'as vraiment, parce que c'est le podcast du compliment. Moi, je trouve que t'as une attitude tellement stand-up. Mais dans le bon sens. Pas dans le sens, t'as piqué. tu joues à un stand-upper. C'était juste chill, je fais des blagues, je suis détendu, mais t'as un propos, t'as un texte et tout, mais on voit pas le côté je répète un texte que j'ai appris.
Ok, bah c'est cool.
Donc on voit pas l'écriture, mais on sait qu'il y en a une. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ouais, enfin ça paraît conversationnel.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
On dirait, c'est possible qu'il y ait des gens qui disent ah ça tu l'avais pas écrit et en fait ça fait 2 ans que tu l'as écrite.
Ouais.
Juste parce que les gens se disent bah ça tu l'as dit en impro parce que t'as l'air de l'avoir dit en improvisation.
Cool.
Une vibe un peu, un peu Roman Frécinet, un peu comme ça.
Ah ouais.
Genre Roman Frécinet, moi j'ai pas l'impression qu'il a écrit ses trucs.
Ok.
J'ai l'impression qu'il parle avec son cœur et qu'il dit comme s'il parlait à l'un des potes.
Ouais.
Et du coup je vois pas le texte, mais il a une écriture de fou. Hein,
ouais.
Et un travail de fou.
C'est léché, ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est plus une vibe de je suis trop chill.
Ouais.
T'es, pour moi, t'as l'air trop chill. Moi, il y a des plateaux qu'on a fait ensemble, ça m'énervait un petit peu. Tu
vois. Sérieux?
Mais t'arrives. Il y a beaucoup de gens qui m'énervent en stand-up comme ça. Mais c'est pas négatif.
Ouais, hein. Je capte, ouais,
c'est juste que moi, je suis tellement angoissé. Ouais. Et je vois des gens qui arrivent et qui font, alors, ça se passe où? Ça se passe là? C'est cool. Je vais prendre un verre.
Ouais, hop. Moi, je pense qu'il y a, je sais pas, mais je pense qu'il y a un peu un côté insouciant, mm-hmm. mais inconscient.
Ouais.
C'est comme le truc où on a fait la tournée là, que on se disait juste j'essaie de pas y penser et juste d'essayer de contrôler ce que je peux contrôler, tu sais. Mais pour le truc conversationnel, en vrai, ça me touche beaucoup que tu dises ça en tant que genre connaisseur des blagues et tout, parce que des stand-up que je préfère, c'est ce que j'aime, genre des mecs comme Patrice O'Neill, Bill Burr, Louis C.K. que je sais qu'il y a du texte et du travail. Enfin, c'est des architectes de la blague. Mais tu le vois pas qu'il y a des blagues. Mmh. Et j'aime ça. Je me dis souvent que quand t'essayes très fort de faire quelque chose, ça va se voir et que ça paraît forcé. Donc si c'est ce qui transparaît sans que je le force, je trouve ça vraiment super cool.
Je trouve ça vraiment cool. Mais tu vois, je t'ai vu plein de fois faire... Bah, quand on fait les scènes de stand-up, on se revoit faire les mêmes sketchs.
Ouais.
Mais je trouve que tu les vends toujours bien, avec une bonne attitude, pas cool. Un gars qui répète son texte, tu vois.
Merci, c'est super cool.
Bah,
putain.
Encore une fois, je t'aurais pas eu dans le podcast si je trouvais pas que ce que tu fais est cool. Ouais. Je t'aurais pas recommandé aux gens. Moi, c'est ça aussi que, le podcast, je reçois que des gens que j'aime trop. Et quand il y a des gens qui me disent, ah, tu me conseilles qui à aller voir en humour? Je fais, ben, prends n'importe quel invité du podcast, va le voir. Okay. Moi, je les conseille tous à 100%. Je dis pas qu'ils vont faire un carton à chaque fois. Hein,
mais c'est des gens que.
Que des gens que je sais qui sont drôles et que.
Tu mets le tampon.
C'est ça. Mais j'ai mon tampon de validation. Ouais. Que tout le monde s'en fout un petit peu.
Bah, mais... non, mais enfin, il y a aussi un truc d'expertise de 80 invités. Au bout d'un moment, ce que tu dis, ça a du poids puisque t'en as mangé beaucoup.
Ouais, mais ça reste très subjectif, tu vois. Il y a des gens qui cartonnent que moi, je.
Ouais,
je ne comprends pas du tout.
C'est marrant quand même.
Ouais, c'est vrai.
Même la compréhension, je trouve ça rigolo que. Genre, il y a plein de gens que, genre, j'adhère pas. Tu sais, comme certains styles de musique, c'est genre, j'adhère pas, mais ok, je comprends. Mais toi, que tu comprends pas, genre, c'est genre, attends.
Ah non, mais moi, c'est si, c'est juste objectivement, ils me font pas rire.
Ouais. Donc, et tu comprends pas non plus que.
Je comprends pas que spécialement les gens rient, mais je vois le.
Ouais.
Ça, je vois le texte, je vois la personnalité, ouais. Je vois que la personne, elle est à l'aise et tout. Ouais. Mais le moment de la blague, je vois plein de gens qui rient autour de moi et je fais, mais je ne comprends pas ce qui est drôle.
Ouais.
Mais je vois que c'est bien fait.
Ouais.
Mais pour moi, c'est, je comprends pas. Donc, ces gens-là, je les recevrai pas dans le podcast, mais c'est pas pour autant qu'ils sont pas bons.
Oui, non, bah, c'est genre, une phrase, genre, il y a le documentaire Headliners Only qui sort, là, de Chris Rock et Kevin Hart. Et dans la bande-annonce, il y a une phrase de Chris Rock que j'ai bien aimé, c'est, l'art, c'est subjectif, l'humour, c'est subjectif, mais tuer sur scène, c'est pas subjectif.
Mm-hmm.
Donc, à partir de là, tu sais, même un gars que t'aimes pas, si tu le vois, genre, provoquer des vagues de fou rire, c'est bon, bah.
Ah non, mais moi, je t'avais eu la discussion, je vais pas dire le nom de l'humoriste, parce que ça donne l'impression qu'il est pas bon,
ouais.
Parce que je sais pas ce que je dis,
ouais.
Mais j'étais dans une salle avec tout le monde autour de moi qui rit, qui se pisse dessus,
ouais.
Et moi, je suis là, je ne comprends pas ce qui se
passe. Moi, j'écrirais un sketch sur toi ce jour-là. Je trouve que le focus de toi qui est au milieu d'une salle hilar, qui rigole pas, je trouve ça hilarant.
Ok, bah c'est ça, mais c'est ce que j'aime trop dans le stand-up aussi. Moi, ouais. Ça m'est arrivé de voir des spectacles que je suis en train de pleurer de rire. Je ne trouve même ma copine qui a arrêté de le regarder parce qu'elle se faisait chier, quoi.
Ouais.
Je fais, ah, waouh,
ouais.
C'est fort.
Ouais.
Moi, quelqu'un que je trouve un génie, pour un autre, c'est un nul qui devrait arrêter.
À ce point?
Non, mais il y a des gens qui sont un peu extrêmes dans leur opinion, tu vois, qui s'intéressent pas, donc ils voient pas le travail spécialement. Ouais.
C'est ça aussi, c'est que nous, souvent, on est... Ça, c'est un des... Peut-être, je pense, c'est le seul côté négatif, c'est que parfois, t'es moins dans l'appréciation et plus dans l'analyse. Enfin, souvent même, voire tout le temps.
Moi, j'arrive bien à me déconnecter.
Ah ouais?
J'arrive à juste profiter et après me mettre en mode analyse après le spectacle.
Ouais, ben...
Moi, souvent, si tu me demandes un retour spécifique sur ce que tu viens de faire... Je suis pas souvent capable de le faire parce que j'étais juste en train de rire à tes blagues.
Ah ouais.
Mais si tu me demandes, je regarde ta vidéo, je pense que je peux faire un retour.
Ouais,
ça
peut
être utile. Des fois, ça m'arrive d'avoir une idée de blague et donc de le dire à quelqu'un.
Mm-hmm.
Mais souvent, je suis juste en train de me dire c'est trop marrant.
Ah ouais. C'est cool.
Et pas de me dire pourquoi c'est marrant.
Ouais.
Je vais voir des spectacles. J'étais voir Yacine Bellous, son nouveau spectacle, parce qu'il fait un spectacle tous les ans.
Ouais.
2023, il m'a dit, est-ce que si t'as des retours, n'hésite pas. Et je réfléchis, mais j'étais juste là, c'est trop marrant.
Ouais.
J'ai pas arrêté de rire, tu vois. Si je l'avais en vidéo, je ferais des arrêts. Je serai en mode analyste, mais quand je suis dans le moment, je profite juste de rire.
Ouais.
Et je suis trop bon public. Je ris tellement fort.
C'est cool. Bah, ça.
D'ailleurs, quand t'étais venu jouer au réservoir, tu t'es arrêté pour que je puisse continuer à rire. Tu vois, c'est très bon signe.
Merci, c'est cool ça. Ça fait plaisir.
Bah, c'est pour ça que je t'avais recommandé toi quand t'avais les scènes et j'avais recommandé aussi Reda Saoui.
Mm-hmm.
Reda aussi m'avait dit ah, je viens jouer en Belgique, j'ai mon spectacle, j'aimerais bien remplir. Mm-hmm. Je voudrais jouer un peu partout. Ouais. Bah, pareil, il a joué. Ouais.
C'est un crack, Reda.
Il a joué la blinde quand il est venu et,
ouais.
et c'était trop bien. Ouais. Mais c'est ce qui est cool, c'est que les deux que j'ai recommandés, bah, les gens me disent tous, tain, il est trop fort.
C'est vrai, t'as eu des retours?
Bah, moi, je t'ai dit, j'ai enregistré hier avec Salva et Simon
vrai,
Le Perse.
Ouais.
Et Salva, à la fin de l'épisode, me dit, je dis, qui est-ce que tu voudrais entendre dans le prochain épisode? Il me dit, ah, t'as eu Jérémy IP? Bah, j'enregistre avec lui demain. Mais il fait, oui, c'est vrai que c'est toi qui l'avais recommandé à tout le monde.
Merci, Salva.
C'est le podcast du compliment. Faut que j'en donne quelques-uns pendant le podcast.
C'est bien d'avoir un jour un podcast où tu roast l'internet.
Que je reçois un avis. Ouais. Que je reçois un invité que j'aime pas du tout. Ouais. Je fais... Alors, ton spectacle dernier était vraiment de la merde. On va expliquer pourquoi j'ai trouvé que c'était mauvais.
Alors, partie 1. Tu t'es roulé un parchemin. Alors.
C'est ça. À date, donc peu importe l'endroit, Belgique, France, Suisse. Je sais pas si t'as déjà joué en Suisse.
Non.
Je te conseille d'aller jouer en Suisse. J'ai pas joué en Suisse, mais j'ai vu des trucs cool.
Ok. Bon, bah, je vais faire Montreux alors.
Bah ouais, c'est ça. Je te le conseille. Ça a l'air pas mal. Une petite lumière derrière, je trouve ça joli. Quelle a été ta pire et ta meilleure scène?
Ma pire scène? Une chicha en 2019.
Ça commence bien.
Mais c'était marrant parce que j'étais avec, avec mon équipe dans le stand-up, genre mes gars sûrs. On est allé à une chicha à Bobigny. On devait être payé 80 balles. On arrive, le gars il dit, ah, les gars, ça va être 50 balles. On dit, ok. Et puis on va s'installer, genre, devant. On attend que le truc il commence. Et un de mes potes passe en premier. Un sketch que je l'ai vu faire la veille, qui a cartonné. Là, un sketch qui est censé faire 10 minutes. Là, il fait 4 minutes. Les mêmes phrases, mot pour mot, 4 minutes. Pas un rire. Puis j'y vais. Pas un rire. Un autre pote, il va, il essaie de faire des blagues un peu, tu sais, genre, bah, il y a beaucoup de Renois dans la salle. Ouais, vous, les Renois. Et le gars, il y a un mec dans le public qui dit, hey, me regarde pas quand tu dis ça, on va te monter en l'air. Enfin, mon pote, il fait genre, ah ouais, c'est tendu ici. Mais il a eu quelques rires à la fin. Il se barre. Puis le tout dernier, Sylvain Diquet, un crack, il fait un super bon passage. Et puis, on se casse. Mais on a vraiment l'impression d'être, c'était vraiment lunaire cette soirée. On avait vraiment l'impression d'être, tu sais, comme dans les films les buddy cop movies là où ils vont genre dans le repère des il y avait vraiment cette énergie où on était là oh, qu'est-ce qui se passe, c'est pas que toutes les chichas sont comme ça, mais ce moment là
déjà les chichas de base c'est dur,
mais là c'est dur de faire des blagues en chicha, mais là cet endroit là il y avait un côté hostile et
c'est arrivé en territoire ennemi vraiment
ouais
parce que moi j'ai juste en termes de chicha j'ai juste fait le trône à Montréal
c'était
qui est ça, dur.
Ouais, l'ambiance était un peu difficile, mais
c'est pas hostile.
Ouais, c'est pas hostile. C'est genre, bah, vas-y, fais tes blagues, mais il y a moyen que ça rigole pas.
C'est limite, les gens sont là. Je ris pas.
Ouais.
Mais ça me dérange pas.
C'est ça.
Ça me dérange pas que tu sois en fond sonore.
Ouais.
Pendant que je souffle dans ma chicha, tu vois.
Ouais. Bah, tu vois, quand j'ai fait le trône, les premières fois que j'avais fait le trône, j'avais déjà cette expérience-là que je viens de te raconter. Donc, étant arrivé à l'endroit, ayant vu que c'est un peu la même configuration, je me suis dit, bon. Ça va pas être fou rire sur fou rire. Vas-y, fais tes trucs. Tu sais, ils ont envie de rigoler eux aussi. Fais ce que tu peux.
Ah ouais, mais moi, j'ai joué deux fois là-bas. Il y a une fois, c'est vraiment bien passé.
Okay.
Genre, j'ai eu des applauses.
Dope.
Et c'est marrant parce que, genre, les jours après, on venait me dire, t'as eu une applause au trône? Bah, les gars, vous savez, quand on a du talent.
C'est comme ça qu'on le présente. C'est Régis, il a eu une applause.
Il a eu une applause. Ouais. Le pire, c'est vraiment quelqu'un qui me l'a dit.
Ah ouais.
Hey, il a eu une applause hier au trône. J'étais là, waouh. Si j'avais su.
Respect.
Bah. C'est dans mes grands succès de vie, tu vois.
Ok.
J'ai une applause au trône.
Je vais le mettre sur ma bucket list. Faut que j'y retourne pour.
Faut que je fasse une applause.
Jérémy, tu veux faire le Zoufest? Non.
Non.
Je vais au trône.
Au trône. Et la meilleure?
Je trouve que c'est un peu plus dur.
C'est plus dur de choisir la meilleure.
Ouais. Parce que c'est la meilleure en termes de quoi? De sensations que j'ai eues sur scène? De ce que ça m'a apporté?
De sensations. Celle qui t'a fait, que tu t'es le plus dit, waouh, c'est trop bien.
On a du temps pour répondre, je peux prendre.
Ouais, prends ton temps.
Ah, il y en a une que j'ai fait il y a peut-être 2-3 mois au terminal. Celle-là, j'en garderai un souvenir particulier. Genre, j'ai testé des blagues. Enfin, moi, sur scène, je me sentais super bien. Les retours que j'ai eus après, je sentais que j'avais vraiment, genre, touché les gens, quoi. Tu sais, vraiment, genre, wow. Tu sais, j'avais vraiment ce truc que moi, sur scène, j'étais en mode, wow, c'est trop bien ce qui se passe. Et eux aussi. Tu sais, ce moment-là, j'ai vraiment eu l'impression qu'on, genre, on vibrait vraiment à la même vibration, enfin, à la même fréquence. Et ouais, c'est un moment que j'ai couru après. Ce moment sur scène pendant plusieurs semaines après, mais je ne l'ai pas retrouvé.
Ok, ouais.
Et ouais, c'était...
C'est ouf. Hein.
C'était magique, là.
Si tu avais un point à améliorer en particulier,
Sur mon stand-up.
Dans ton stand-up ou dans la carrière d'humoriste en général?
La mienne ou...
La toi, pour toi. Est-ce que ça serait plus l'écriture, la gestion de la scène, la gestion du public, la gestion du stress, les réseaux sociaux?
Un point amélioré, ah ouais, bah, les réseaux sociaux. Ouais.
Ce serait le principal?
Ouais.
Ok, et sur scène?
Sur scène, prendre plus de temps, m'attarder un peu sur plus d'idées. Il y a beaucoup de trucs que tu sais, je vais écrire en 5 minutes et puis je passe à autre chose, alors que je ne sais plus dans quelle interview, quel humoriste j'ai entendu dire ça, mais qui disait qu'il voyait des jeunes humoristes parfois, il disait « Ah, ton 5 minutes, il est bien là, mais en vrai, c'est une heure de spectacle qu'il y a là. Mmh. » Genre, tu sais, tu peux creuser, tu peux approfondir. Ça, j'aime vraiment bien. C'est un mec comme Louis C.K. qui est vraiment dans la déconstruction de chaque sujet. Mais il en parle après dans son processus créatif. Il dit que c'est vraiment extrêmement douloureux à faire.
Ouais.
Mais ça, j'aimerais bien tendre vers ça. Mais je ne suis pas trop pressé dans le sens où je me dis « C'est pas tant un métier qu'une vocation. » Donc, à moins de me faire frapper par une voiture ou de me prendre une enclume sur la tête, je vais faire ça. J'ai envie de faire ça toute ma vie, en tout cas. Mm-hmm. Donc, je suis pas pressé.
Qu'est-ce que t'aimes le plus et le moins dans le fait de faire de l'humour?
Là, en ce moment, il y a une tendance que j'aime pas trop. C'est le clapteur.
Le clapteur?
L'humour à clap. C'est okay, genre, oui. C'est pas vraiment des blagues que je fais, c'est des statements que je vois ça parfois sur scène. Tu sais, des gens qui viennent avec un propos. Mais mm-hmm. pour moi, il y a plein de propos intéressants que tu peux avoir sur scène. C'est un bon endroit pour aborder des trucs qui te tiennent à cœur.
Mais fais-le avec des blagues, quoi.
Ouais, mm-hmm. et avec des blagues qui sont designées pour faire rire, pas pour solliciter des applaudissements. Genre, ouais, c'est grave vrai. Ça me cringe même.
Ouais, après, des fois, c'est bien fait, c'est amené dans un spectacle.
Ouais, mais
c'est parce que ouais, je comprends.
Malgré ça, je trouve qu'il y a toujours moyen de dire ce truc-là en créant un fou rire plutôt qu'un. Mais après, peut-être que je vais évoluer là-dessus. T'sais.
Non, je peux comprendre, mais moi j'ai ça aussi et j'aime bien s'il y en a un qui a une rupture à un truc.
Ouais.
Cassé après.
Oui, voilà, ça j'adore ça. Ouais.
Ou qui amène une tellement grosse blague derrière.
Ouais. Ouais.
Ça j'aime bien.
Ouais.
Je vois le truc un peu de maîtrise.
Ouais.
J'ai vraiment
c'est
choisi.
Ça, je
il
n'y
a pas de blague à ce moment-là, je
ouais.
tiens les gens et. Paf,
ouais.
la grosse blague.
Ouais. Ça, je trouve ça vraiment super cool. Et il y a plein de trucs intéressants à aborder et de causes à défendre, mais venez, on fait des blagues.
Ouais.
Mais bon. Okay.
Et qu'est-ce que t'aimes le plus? C'est de faire des podcasts avec Régis Canon.
Ouais, c'est cool. En vrai, c'est cool. Non, en vrai, je pensais pas que j'allais être aussi... Bah, c'est peut-être parce qu'on se connaît un peu aussi, mais ouais, je suis plus à l'aise que j'aurais cru. Ce que j'aime le plus, en vrai, c'est tout ce qui est périphérique à la scène. Genre, discuter avec des gars qui me font vraiment rire. Et tu sais, quand il y a des blagues qui naissent dans les coulisses, mm-hmm. ah, c'est trop bien, ça. Genre, bah, je parlais des gars avec qui j'étais en... j'ai bourlingué un petit peu, là. Sylvain Diquet, Yazid Assoumani, Samy Bell, Boris Chelin, c'est des gars qui me font vraiment beaucoup rire. Il y a une blague de Samy Bell, en ce moment, qui me fait beaucoup, beaucoup rire aussi. Il y a des gens que j'aime voir jouer sur scène. Mm-hmm. Tu sais, genre, j'aime bien les blagues, tu sais, les lignes. Mais j'aime bien les moments de jeu et Samy, en ce moment, il a des blagues qui me font énormément rire. Des longs, longs, longs act-out. C'est quelque chose que je voyais moins, surtout à Paris. À Paris, il y a vraiment un truc un peu de... Bah, c'est bien après, mais un culte de l'efficacité où c'est très bam, 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 bam. Et là, en ce moment, Samy, il a une blague. Bah, je ne vais pas vendre sa blague, mais c'est une longue scène. Une longue scène qui l'étire et je trouve ça hilarant. Ça, j'aime bien.
Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière? Parce que tu as dit que tu voulais faire ça toute ta vie.
En vrai, des salles remplies, pas de bad buzz. Parce que j'avoue, parfois, je sais pas si ben, t'as vu que parfois je fais des blagues qui picotent un peu. Mais parfois, on me dit que ouais, ça, tu pourrais peut-être mettre ça sur Internet. Mais j'ai un peu la trouille que mes intentions soient mal comprises. Tu sais, je suis tout le temps dans le... Je trouve ça... Je pense avoir des bonnes intentions. Et la première intention, c'est de faire rire. La première bonne intention, c'est d'être une... personne décente. La deuxième, c'est de faire rire. Mais parfois, il y a des blagues où je me dis, est-ce que ça, les gens, ils pourraient pas mal le prendre?
Ouais, mais je crois que en vrai, tu le contrôles pas.
Hein. Ouais. Ben, c'est ça, juste...
Parce que c'est je pense que les bad buzz, c'est soit une personne qui est complètement une mauvaise personne et que ça transpire dans un truc.
Ouais.
Ou alors, c'est quelque chose qui est sorti de son contexte, les gens ont pas compris.
Et ça arrive souvent, ça, en ce moment.
Ça arrive souvent, mais en vrai, de vrai, ça fait un bad buzz, mais ça change pas tant que ça, truc pour eux. Si c'est juste quelque chose sorti de son contexte, parce que si t'as l'œuvre complète, tu vois bien qu'il n'y a pas de souci.
Ouais.
Et je ne me rappelle pas avoir vu un truc de toi où m'être dit
ouais.
Oh,
okay.
C'est chaud ce qu'il vient de dire.
Okay.
Me dit, c'est, tu joues sur la ligne et tu viens chercher un petit peu. Et ce que je trouve chouette, c'est que tu. C'est nuancé. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu parles un peu de racisme, parce que t'es une personne racisée, du coup, c'est d'office quelque chose qui te touche.
Ça fait partie de.
Ouais. Ça fait partie de toi. Je veux ouais. dire, je m'en rappelle, t'as fait un sketch sur la petite sirène noire à Montréal.
Ouais.
Mais t'avais un angle intéressant. Tu vois ce que je veux dire? T'es venu en parler. T'es dans la nuance. T'es pas juste dans un sens ou dans l'autre. Donc je pense que tu amènes une nuance qu'on comprend ce que tu veux dire.
Cool.
De ce que je me rappelle. Après, peut-être que maintenant, t'es rentré à Paris et t'as un gros sketch sur le fait que les femmes doivent rester à la cuisine. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu fais. J'ai recommandé l'ancien Jérémy.
Je suis en train de le muscler, cette semaine.
que je connaissais de Montréal, qui était déconstruit. Mais ok, je te souhaite de ne pas avoir de bad buzz.
Et des salles remplies.
Et des salles remplies. Dont la salle du Kings le 16 février
le
à 21h.
Le 16 février, c'est ça.
Remplissez-moi cette salle. ça me ferait plaisir. Ok, eh ben, je pense que j'ai posé toutes mes questions. On peut passer à ce que j'appelle l'interview name dropping.
Ok.
Donc, je te demandais de me donner un humoriste pour chaque catégorie. Donc, c'est un homme, une femme, québécois, français, suisse, ce que tu veux, américain. Peu importe, mais à chaque fois, une personne par catégorie.
Right.
L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré.
Régis Cannon.
C'est vrai?
Ouais.
C'est gentil.
Ouais, ouais.
Mais tu dis ça juste parce que c'est dans mon podcast?
Non, non, sympa. Ben, après, il y a aussi le truc, c'était le premier qui me vient là tout de suite.
Ok, oui, oui.
Tu sais, il y a un groupe de sympas et puis là, t'es là, mais ouais, non, ouais. En vrai.
C'est gentil. Hé. Hey. Je m'y attendais pas, je suis touché.
Attends, c'est la première fois qu'on te le dit? Que t'es sympa, sérieux?
Bah, c'est pas la première fois qu'on me dit que je suis sympa dans ma vie.
Mais... Non, mais dans l'humour. Après, je compte pas les Québécois, mais ils sont extrêmement chaleureux culturellement. Donc, il y en a beaucoup de Québécois. Mais la première fois qu'on s'est vu, je me rappelle que t'avais tout de suite le visage allumé, quoi. Hé, hey, salut, tu sais.
Ok.
T'avais ce truc-là de. Alors que moi, je suis très. Je suis plus gardé, quoi.
Ok. Mais c'est parce que ça me touche, parce que ça me fait plaisir qu'on me considère comme sympa.
Dope.
Mais c'est parce que je pense que je suis quelqu'un de sympa, mais je suis quand même. Je suis tellement timide et réservé que je pense que des fois, on me calcule pas. Tu vois ce que je veux dire?
Mm-hmm.
On voit pas que je suis sympa et que j'aime.
T'es visible quand même.
Ouais, mais je suis discret quand même.
Okay.
Tu vois, j'ai tendance à me mettre en retrait.
Okay.
Et si je me sens pas à l'aise, on me voit moins. Tu vois.
Ouais, okay.
Peut-être que parce que tu m'as mis à l'aise, du coup, tu as vu que j'étais là. Tu vois ce que je veux dire? Bah, je suis content. Ça me fait plaisir. Mon ego est flatté. Je vais mettre une petite. Je vais juste garder ça du podcast. l'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus?
De tout temps?
De tout temps.
Louis C.K.
Louis C.K. Oh, ça m'arrange. J'aurais pensé Dave Chappelle.
Non, Dave Chappelle, ça a été un genre pas de tremplin, mais c'est. Le premier que j'ai aimé, puis il y en a eu d'autres qui m'ont touché différemment.
Ok. L'humoriste qui, pour toi, écrit le mieux?
Charles Brunet.
Charles Brunet?
Ouais.
Oh, waouh. Beau compliment, mais il est excessivement bon.
Ah ouais, mais il taffe comme un fou furieux. Ouais. Mais ouais, non. Là, on a dit qui m'a le plus inspiré all time, il y a Louis C.K., parce que j'aime sa façon d'aborder l'humour. Mais dans les dernières années, c'est Charles.
Ok, waouh.
Ah ouais, non, ça.
Ah non, mais je suis d'accord avec toi, hein. Je l'ai trouvé incroyable. Je l'ai vu parler de plein de sujets avec plein d'intelligence et tellement jeune. Enfin, moi, je me sentais vieux à chaque fois que je le voyais.
Bah, on est vieux, mais.
On est vieux, ouais. Bah, pour Charles Brunet, tu vois, le monde est vieux, tu vois. Il est tellement bon.
Moi, ce que je kiffe, c'est à quel point il est précis et j'aime bien sa façon d'aimer l'humour. Je trouve que ça ressemble à la mienne.
Mm-hmm.
C'est genre les blagues, quoi. C'est quoi la blague?
Ouais. Mais très simple aussi.
Ouais.
Tu vois, c'est pas plein de fioritures, mais c'est pas pour autant basique.
Ouais, ouais.
C'est recherché,
ouais.
Mais accessible. Donc ça peut toucher tout un public. Genre, t'as vu le sketch sur. Bah, tu l'as vu. Le sketch sur la branlette qu'il faisait. Je trouve que c'est débile, tu vois, comme sujet de départ.
Je sais plus là.
Et il en fait quelque chose de tellement drôle. Je pleurais de rire sur un truc qu'au départ, tu me dis, ah, il a fait un sketch sur la branlette. J'ai fait, oh, un sketch sur la branlette. Encore un, tu vois. Et lui, il arrivait.
Ah oui, je crois, oui, je vois. Ouais, ouais.
Il m'a fait pisser de rire.
Ouais.
C'est impressionnant. Au JT, il était venu, il avait retourné le truc. À chaque fois, il vient détente. Lui aussi, il a un truc très stand-up, qui respire le stand-up aussi.
Bah, c'est ça, genre, j'aime bien ça. Je pense que c'est parce que c'est comme avec certains fans de sport, tu sens que, genre, on aime le même truc dans le sport.
Mm-hmm.
Et là, avec le stand-up, je pense que lui et moi, on kiffe la même chose. C'est pour ça que, genre, je relate avec lui et il travaille fort, c'est ça que j'aime bien.
L'humoriste qui, pour toi, joue le mieux?
Damon Wayans.
Oh.
Okay. Ah, ça dépend comment. Parce que Louis C.K. il joue bien aussi.
Mm-hmm.
Ah, il joue le mieux. Non, vas-y, Louis C.K.
Ok. Et un humoriste qui t'a surpris dernièrement. Soit quelqu'un que tu connaissais pas et que t'as découvert, soit quelqu'un que tu avais pas vu depuis longtemps et qui est revenu avec un niveau de fou.
Elles sont techniques tes questions.
Ou peut-être juste un, quelqu'un que t'as vu en Belgique, t'as fait « Wow, c'est bon ça ».
Ah, j'ai bien aimé Ilona. Ilona,
Ilona ?
Ouais.
Oh cool, ça ouais. va lui faire plaisir.
Je sais pas si elle sait qui je suis. On s'est croisés deux fois.
Non, mais c'est, je vais lui dire que tu as dit ça, ça va lui faire plaisir.
Ok.
C'est Ilo Danger sur Instagram, Ilona Dufresne, il me semble son nom de famille. Incroyable, moi j'adore.
Ouais.
Je la trouve très très forte, mais très naturelle. Et ouais, je la trouve très très forte. Ouais. Et ce qui est trop marrant, et j'espère que ça ne l'embête pas que je dise ça, c'est à chaque fois qu'elle descend de scène, elle n'est pas contente.
Ouais, c'est ce qui m'a surpris en fait, parce que je l'ai vue deux fois avant de lui parler. Et la deuxième fois, elle est sortie, elle avait cartonné. Et elle était, ouais, elle était vraiment insécure. Et j'étais genre, ah ouais,
ouais,
c'était bien ce que je viens de
Mais voir. Peut-être que c'est un truc pour qu'elle ne se repose pas sur ses acquis et ouais. continue de travailler.
Peut-être elle est jeune dans le stand-up.
Ça fait pas long, mais ultra efficace, quoi.
Ouais.
Et très bon. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Bah, je lui ai proposé de faire le podcast.
Mais est-ce que je peux dire qu'elle m'a surpris vu que je la connaissais pas?
Ah ouais?
Bah ouais, c'est ça, c'est genre entre guillemets découverte.
Si bah, c'est pour ça, je me dis, on fait un petit shout out à quelqu'un de Belgique.
Okay.
C'est sympa.
Ouais.
Et maintenant, je vais te demander de choisir entre deux humoristes.
Ouais.
Lequel des deux te fait le plus rire? Donc, ça veut pas dire que l'autre personne n'est pas talentueux ou talentueuse. C'est juste. Ça te touche un petit peu plus, ça te fait rire un petit pourcent de plus que l'autre. Entre Richard Pryor et Louis C.K.
Qui m'a fait, je pense, Louis C.K.
Louis C.K. Entre Chris Rock et Dave Chappelle.
Dave Chappelle.
Entre Thomas Ngijol et Edgar Rive.
Edgar Rive.
Ok. Entre Charles Brunet et Anna Sassouna.
Charles Brunet.
Entre Blanche Gardin et Charles Soignon.
Blanche Gardin.
Entre Louis Chappé et Marwan Belazar. Ben Lazar.
Ah, ça fait longtemps que j'ai pas vu Louis. Vas-y, basé sur ce que je connais. Mais je connais plus les blagues de Louis. Donc. Ouais, en vrai, juste parce que je connais plus Louis.
Ok. Entre Roman Frécinet ouais. et Farid.
Roman.
Entre Dolino et Cyril Yves.
Ouh. Technico-technique. Parce que les deux me font grave gaulerie, mais pas de la même façon. Ah, je pense Dolino.
Et entre Dom Babin et Francis Legendre.
Francis.
Et la toute dernière question que je pose dans chaque épisode, c'est ouais. qui est-ce que toi tu aimerais entendre dans le prochain épisode à travers la francophonie.
À travers la francophonie. Attends, je vais bien réfléchir parce que j'ai pas envie de dire quelqu'un que t'as déjà eu. Tu peux prendre du temps?
Ouais, vas-y, à ton aise. On est tranquille, on est osé. On a du jus de pomme.
T'en veux d'ailleurs?
Je veux bien après, t'inquiète.
Okay. Qu'est-ce que j'aimerais bien entendre? Yazid Assoumani.
Ok.
Tu le connais?
Pas encore.
Ok.
Mais c'est cool. C'est aussi, ouais. c'est une des raisons principales pour laquelle je pose la question.
Ouais.
C'est pour découvrir de nouvelles personnes.
Ok.
À chaque fois, le nom qu'on me donne, si je le connais pas, je le rajoute dans ma liste et je vais aller voir ce qu'ils font.
J'imagine, elle doit être très très longue cette liste.
C'est une bonne liste.
Ouais. Yazid, c'est un mec que je le trouve jamais pas drôle.
Ok.
Même quand on est en dehors de scène, quand il te raconte sa vie, et c'est avant, je trouvais qu'il contrôlait moins son truc, mais là, je l'ai pas vu depuis 3 ans. Et puis quand je reviens, on dirait qu'il est tout le temps on, quoi.
Mm-hmm.
Et ouais, je le trouve trop marrant.
C'est ça qui est cool aussi de laisser du temps et de revoir les gens
ouais,
après un moment.
Ouais, les gens
ouais. Je trouve ça trop cool ouais. de voir l'évolution.
Ouais.
C'est ça que moi, je suis parti aller un an à Montréal. Quand je suis rentré, j'ai vu des gens, je me suis dit, waouh,
cool.
L'évolution est folle de certains.
Ouais.
Il y en a d'autres qu'il n'y a pas d'évolution et tu fais pas. C'est très bien.
Ouais.
Moi, j'ai les compliments qui m'ont fait plaisir quand je suis rentré, c'est les gens qui ont fait waouh, on voit que tu as bossé à Montréal. Ouais. Et ça m'a fait très plaisir. Il y a des fois où c'était pas le cas. Il y a des bonnes scènes et des moins bonnes scènes, mais c'est un compliment qui me fait plaisir. On voit qu'il y a du travail parce que j'y mets du travail. Donc j'aime bien que ça se voit.
Ouais.
Tu vois.
Normal.
Donc espérons que ça continue dans ce sens-là.
Yes, sir.
Ben merci beaucoup. T'as
merci
répondu à
toi.
Toutes mes questions. Merci beaucoup d'avoir fait le podcast avec moi.
Je t'en prie.
Et j'espère que tu auras une salle remplie le 16 février à 21h ouais. au Grand Kings à XL. Remplissez-moi cette salle, s'il vous plaît. Montrons à la France que la Belgique, on sait recevoir. Ça marche. Ça, c'est pour motiver les Belges. Il n'y a rien de mieux
ouais.
pour motiver des Belges que leur dire hey, faites mieux que la France.
Okay,
c'est vraiment le meilleur moyen pour les avoir.
Toute la France attend que vous remplissiez cette salle.
Ça marche. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.